Europe 1,
16h-18h, l'équipe est sauvage.
L'équipe est sauvage, 2 heures en compagnie de Mathieu Noël. Vous savez que c'est tous les jours sur Europe 1 et même le week-end. Hein, on vous a concocté une compilation de la semaine passée. Autour de Mathieu Noël, on retrouve sa complice Eva Rock, les journalistes d'Europe 1 en compétition pour le titre de chroniqueur du jour. Et puis un invité venu nous parler de son actu et distribuer les points aussi, hein, puisque le vote de l'invité compte triple. Et l'objectif pour nos journalistes, eh bien, c'est d'offrir le meilleur sujet pour séduire donc l'invité d'honneur. Aujourd'hui comme hier, eh bien, il y aura David Wankinos, l'auteur à succès, autre plume Eric Orsena, le chef cuisinier Olivier Rollinger, la comédienne Sandrine Bonner, mais aussi un duo d'acteurs à l'affiche du film Une belle équipe, Kad Merad et Sabrina Ouazani, présents vendredi dernier sur Europe 1, c'était lors de l'émission En public.
Regardez-moi ce public, Kad, qu'est-ce que vous voyez?
Une bande de vieilles dames.
Non, Kad, non! Des fans remontés à bloc! Demandez à Alain Siroux de vous prêter ses lunettes, bon Dieu! Justement, l'heure est venue d'écouter notre ultime concurrent du jour, directeur de la revue Ciel et Espace. Pour lui, la science, c'est simple.
C'est chercher une aiguille dans une botte de foin, y découvrir la fille du fermier et l'épouser.
Alain Siroux, outre fantasmer sur les filles de fermier que vous pourriez potentiellement rencontrer dans des meules de foin, vous vous êtes penché aujourd'hui sur le tourisme de demain, un tourisme temporel. Concrètement, ça va ressembler à quoi ?
La meilleure façon de l'expliquer, c'est lorsque vous préparez vos vacances, Mathieu, vous décidez, alors on est au mois de janvier, vous allez partir en vacances en juillet ou en août, vous allez aller sur Internet pour chercher votre destination, vous allez cliquer
sur
Google.
Moi, je vais chez Cad à Marseille, m'a invité. Ouais.
Très bien. Bon.
Moins cher.
Mais vous pouvez regarder à quoi ressemble sa maison, aller dans la rue où il habite, sur Street View, des choses comme ça. C'est-à-dire que vous allez chercher l'information directement sur Internet. Et la question qui s'est posée aux institutions scientifiques, c'est est-ce qu'on pourrait faire ça dans le passé ?
Pour chaque époque ?
Est-ce qu'on pourrait revenir dans le passé et fabriquer une machine virtuelle, en quelque sorte, qui permettrait d'en savoir autant sur le passé qu'on peut en savoir aujourd'hui sur notre époque, c'est-à-dire les big data ? Et en fait, c'est possible. Pourquoi c'est possible ? Parce que dans les bibliothèques, il y a des tas et des tas et des tas d'archives. Bon, vous avez des photos, vous avez des cartes, vous avez des tableaux, vous avez les actes notariés, vous avez des livres. C'est-à-dire en tout des centaines de kilomètres
on peut recréer
de
les
données
villes telles
qui
qu'elles
sont
étaient.
À numériser. Et l'idée, c'est de fabriquer justement les big data du passé. Alors, c'est assez simple dans le principe. Vous prenez effectivement ces quantités d'informations astronomiques, vous les numérisez, donc vous fabriquez ces big data. Ensuite, vous croisez les données pour effectivement faire qu'on puisse comprendre qui habitait cet endroit, quel était son nom.
Mais non.
Quel était son cousin ? Quel était le petit commerce qui était à côté ?
Donc ce n'est pas une simulation, ce n'est pas fictif.
Ce n'est pas un jeu. C'est les informations du passé, comment on va les lier pour reconstituer finalement, le plus fidèlement possible, ce qui se passait dans le passé, mais pas seulement les lieux, mais aussi les gens, les familles, les liens.
Attendez, je comprends que ça soit techniquement possible. En revanche, c'est des moyens énormes pour arriver à ça.
Absolument, mais on peut le faire aujourd'hui. Parce que vous savez que les big data, donc les ordinateurs, brassent déjà, c'est Google déjà, des milliards et des milliards de données. Et l'idée, c'est d'utiliser le passé pour le faire. Donc, c'est de fabriquer un portail temporel qui est une représentation synchronique de la ville, mais dans laquelle on pourrait mettre aussi des sons, dans lesquels on pourrait mettre aussi des odeurs, dans lesquels on pourrait, et c'est là où on trouve la deuxième ouverture, qui est que les techniques de l'intelligence artificielle aujourd'hui nous permettent de mettre sur des casques de réalité virtuelle ces données et d'aller visiter. Alors, on va dire Venise au XIVe siècle, Paris au Moyen-Âge, je l'ai fait pour une première représentation. Mais aussi vos villes de province, aller voir vos ancêtres, là où ils habitaient.
On pourrait rencontrer son ancêtre.
Par exemple, aller voir quel était son environnement. Alors, sur Paris, c'est extraordinaire parce que, attention, c'est pas une plaisanterie. C'est-à-dire que les gens qui travaillent aujourd'hui là-dessus, c'est des sociétés comme Ubisoft, c'est le Louvre, c'est des grandes institutions. 475 organisations scientifiques en Europe travaillent actuellement sur le sujet pour reconstituer ça. On pourrait visiter des monuments qui n'existent plus. Prenez la place de la Bastille. Il y a des représentations sur les siècles passés. On pourrait remonter 1000 ans en arrière, pratiquement. Et là, je veux juste vous parler, parce que c'est embryonnaire pour l'instant, mais on peut se promener déjà dans Paris du Moyen-Âge. Et il y a une musicologue qui s'appelle Mylène Pardouen qui a travaillé sur les sons. Parce qu'à l'époque, il y avait des marchands, des bateliers, des artisans, des lavandières. Et en fait, l'idée, c'est de travailler aussi sur le son par rapport à ce qu'on connaît de la place des bâtiments. C'est-à-dire comment ça sonne. Écoutez le Paris. Alors là, on est en 1739, près de la place du Châtelet. vous pouvez vous promener dans ce Paris-là, vous pouvez monter au sommet de Notre-Dame, voir Paris de l'époque, et tout ça. Et
ça, vous l'avez fait?
Alors ça, je l'ai fait, et ça, c'est extrêmement bluffant.
Mais on fait donc, ça où? C'est payant?
Non, pas du tout. Pour l'instant, c'est... C'est Ubisoft ou un ensemble de gens qui travaillent des
oui, mais
des
c'est sociétés. Pas accessible encore au grand public. Alors,
ça commence, si moi, j'ai ça envie commence. De le faire, je vais où le faire?
Alors, pour l'instant, vous pouvez... Alors, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question.
Non, mais... Non, mais
c'est
un
projet pour le moment. C'est en construction.
C'est en projet. Il est en train de s'aborder votre sujet.
Il veut gagner.
Mais vous pouvez... Alors, là, j'ai parlé des choses qui sont connues, mais vous pouvez aller à Lille, vous pouvez aller à Lyon, vous pouvez aller... En fait,
mais on ne peut pas, puisque vous n'avez pas d'endroit où on peut le faire.
Non, mais les villes sont intéressées pour le faire, parce que, justement, c'est une façon de les visiter autrement. Ah oui, et encore une fois, l'idée d'ouverture sur le passé est une idée géniale. C'est-à-dire que vous devenez des visiteurs temporels, sans aller dans le passé. Mais encore une fois, c'est pas un jeu. Vous pouvez vraiment aller sur la trace de vos ancêtres et puis regarder à quoi ça ressemblait.
Bon,
et
alors,
ça,
Alain, ça très émouvant. Moi, j'ai trouvé le sujet super, mais vous allez enquêter pour savoir quand est-ce qu'on va pouvoir le faire. J'ai envie d'essayer. Merci Alain Siroux pour ce voyage dans le temps qui ouvre des perspectives incroyables, puisque si je vous suis, ça signifie qu'Eva pourra voyager dans le temps jusqu'à l'époque où elle chopait encore des mecs.
Ah ouais.
Ça serait dingue.
Ah, ça serait fou. Hein.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h.
La difficile rédemption d'un jeune homme de 25 ans obligé de s'occuper de sa mère malade, tel est le thème de Cas contraire, le dernier film dans lequel joue Sandrine Bonnaire. La comédienne était l'invitée de Mathieu Noël lundi dernier.
Bonjour Sandrine Bonnaire.
Bonjour.
Le 22 janvier prochain, vous serez à l'affiche de Cas contraire, un film très fort signé Sarah Marx, dont on va évidemment parler. Mais déjà, je tenais à vous remercier d'avoir accepté notre invitation, car vous êtes assez rare, finalement, dans les médias, notamment en radio. La promo aujourd'hui, bon, ça fait clairement partie du métier de comédien, mais ce n'est pas votre partie préférée du métier.
Ça dépend sur qui on tombe.
Nous allons voir si vous allez regretter ou pas. C'est ça,
la pression.
Je vous dirai ça en fin d'émission.
C'est la première fois que non seulement les journalistes vont être notés, mais je sens que moi aussi. Alors moi, normalement, vous me notez. Vous notez pas, hein. Je suis le chef normalement, j'ai pas le choix. Mais exceptionnellement pour Sandrine Bonnaire, elle a le droit de me noter. Le 22 janvier, vous serez à l'affiche, Sandrine, de Cas contraire, avec un K comme kétamine. On va voir pourquoi, film de Sarah Marx. Je raconte en quelques mots l'histoire. Vous interprétez Gabriel, vous êtes la mère d'Ulysse, un jeune homme de 25 ans qui vient de sortir de plusieurs mois de prison. On comprend très vite que c'est pas un mauvais bougre. En fait, il est dans l'urgence, il est pris dans un engrenage dont vous êtes, bien malgré vous, un peu responsable, car vous êtes très dépressive. Ce film est très fort parce qu'il dénonce quelque chose de très vrai, c'est-à-dire cet engrenage dans lequel on peut être très vite quand on sort de prison et qu'on est obligé de faire face à un quotidien et d'aider par exemple quelqu'un. 2500 euros, c'est ce dont il a besoin pour vous. Et 2500 euros, le SMIC, c'est pas 2500 euros. Donc à un moment, il faut trouver d'autres solutions. C'est assez terrible.
Oui, il n'arrive pas à rassembler cet argent. Et puis... Bah, quand on sort de prison, voilà, on n'a pas une image forcément très, comment dire, très rassurante pour être employé. Donc du coup, eh bien, il va se mettre à faire du trafic de kétamine qu'il va distribuer dans des rêves parties. Et parallèlement à ça, sa mère, voilà, Gabrielle, qui est moi, très dépressive. Et soignée par la kétamine.
C'est ce paradoxe qui est,
c'est ce paradoxe, oui, voilà, qui est très intéressant.
Est-ce que certains rôles vous poursuivent? Parce que celui-ci, les gens vont le découvrir, il est quand même... Jouer la dépression, c'est jamais simple, on sent un rôle quand même compliqué. Est-ce qu'il y a des rôles qui vous poursuivent, ou une fois que le film est terminé, vous retournez dans votre vie en oubliant complètement le personnage?
En général, j'ai tendance à oublier le personnage. Parce que je suis radicalement différente des rôles. Heureusement d'ailleurs, sinon je serais sous Prozac depuis des années.
Comment, alors, Sandrine, vous êtes une immense actrice de César. Comment on joue la dépression? J'imagine qu'il y a mille manières de la jouer. Enfin, il ne faut pas être caricatural. Alors, vous êtes parfaite dans le film, on ne va pas en faire des caisses là-dessus, les gens le verront. Mais comment ça se passe? C'est la réalisatrice qui vous dit « j'aimerais que la dépression, tu l'interprètes comme ça » ou vous dites « je fais une proposition, pour moi c'est comme ça ». Comment ça se passe?
La dépression, j'ai envie de dire que malheureusement, je la connais bien, dans le sens où on en parlait tout à l'heure, on parlait de ma petite sœur Sabine qui est autiste. Oui. Et j'ai malheureusement traîné beaucoup dans les hôpitaux psychiatriques pour accompagner au mieux ma sœur. Mmh. Et j'ai été confrontée à des gens très très dépressifs et du coup, voilà, j'en ai vu beaucoup et je ne dirais pas que je me suis inspirée d'eux, mais je suis témoin en tout cas de pas mal de gens qui l'étaient.
Cas contraire, un film de Sarah Marx, bientôt sur vos écrans. Sandrine Bonnaire passe l'après-midi sur Europe.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
C'est l'immense comédienne Sandrine Bonnaire qui nous accompagne pour évoquer la sortie le 22 janvier prochain de Cas contraire, le premier film de Sarah Marx.
Quand on voit votre carrière aujourd'hui, Sandrine, on peut penser... Il y a quelque chose qui relève du miracle. Vous avez dit, j'ai fait de la figuration dans la boum et les sous-doués en vacances grâce au père d'une copine pour gagner des sous. J'ai trouvé ça tellement chiant qu'il m'est arrivé de partir avant la fin. Je n'avais aucune envie d'être actrice. Je me souviens de m'être dit, si c'est ça le cinéma, au secours. Ça, c'est les débuts de Sandrine Bonner, quoi.
Ben ouais.
mais quand on pense à tous les jeunes aujourd'hui qui rêvent d'être acteurs, ouais, qui feraient tout pour un casting et tout, vous, en fait, c'est plutôt par hasard presque que vous avez fait ça au début.
C'est arrivé tout à fait par hasard. Mais tout début au cinéma, c'était surtout de la figuration. Donc c'est pas très intéressant de faire de la figuration.
Palme d'or pour Sous le soleil de Satan. Vous avez eu le César du meilleur espoir à 16 ans. Ensuite, le César tout court à 18 ans. Entre 16 et 18 ans, il se passe tellement de choses. Comment on fait pour garder les pieds sur terre? Parce que là, beaucoup répéter les plombs, quoi. Enfin, un tel succès si vite.
Mais alors justement, il n'y a pas de quoi péter les plombs. Quand tout vous arrive formidablement bien, ça ne peut que vous rendre serein. Moi, je ne comprends pas les gens qui se...
Ah oui.
Pour
la
moi,
grosse tête, quand vous croisez des collègues qui ont la grosse tête, vous ne comprenez pas comment ils l'ont attrapé?
Ben non, je ne comprends pas parce que je trouve que c'est un métier, quand on a la reconnaissance, l'argent...
Ça doit apaiser plutôt quelque chose.
Ça doit plutôt apaiser. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a aucune angoisse à avoir. Mmh. On a tout. Vous voyez, c'est quand même...
Ouais. Tout le monde ne l'a pas. Lui, il a toujours su garder les pieds sur terre, pourtant avec un dauphin d'or sur sa cheminée. On aurait pu comprendre qu'il pète les plombs. Tout à l'heure, il assistera à une formation anticorruption, conséquence probable de ce qu'on avait appelé en interne à l'époque l'affaire Seb, où parce que sa femme lui avait réclamé une nouvelle centrifugeuse, il était allé un peu loin.
Seb, entreprise française, qui est le numéro 1 mondial, vous entendez, mondial du petit électroménager. Pourquoi? Parce que Seb a toujours un coup d'innovation, un coup d'avance en matière d'innovation. Seb.
Cette formation va vous faire du bien et à nous aussi. En attendant, vous nous parlez à présent un petit peu des Chinois. Qu'est-ce qui se passe en Chine?
C'est que c'est vrai, oui, les extraits que vous avez passés.
C'est terrible.
Il faut que je me calme.
La formation, on dit, vous défoncez la formation. Aujourd'hui, Axel, vous nous parlez de ce qui se passe en Chine en termes de commerce en ligne, où ça explose encore plus que chez nous.
Oui, mais ce qui est très intéressant, c'est que surtout, ce que je disais, c'est qu'on fait nos courses alimentaires maintenant sur Internet. Et ben, or, vous savez que l'alimentaire, c'était ce... Enfin, je commence pas chronique là, en fait.
Ah oui, oui, complètement, oui, oui, Axel, oui. Oui. Quel professionnel. Avant, il y a eu un teasing, comme d'habitude, comme tous les jours, en fait, Axel. Il y a ton teasing, et là, c'est le moment de la chronique, en fait, où il faut que tu fournisses une information, parce que je vais pas parler tout le temps, non plus, avec Sandrine, on va pas faire toute l'émission, tous les deux.
Voilà. Le phénomène nouveau, c'est que pendant très longtemps, on a dit, il y a une chose qu'on n'achètera pas sur Internet, c'est la bouffe. Pourquoi? Parce qu'une tomate, on a besoin de la sentir, on va pas commander une salade, une laitue sur Internet.
Pourquoi pas finalement?
Eh bien, vous avez raison. Bah, pourquoi pas finalement? Et effectivement, ça vient d'Asie. Alors en Asie, 20% maintenant des denrées alimentaires en Corée sont commandées sur Internet. Et en France, c'est déjà 6%. Et ça augmente de 10% chaque année. Et donc, c'est terrible pour les hypermarchés parce qu'ils s'étaient tous dit « on va se recentrer vers l'alimentaire en misant là-dessus pour survivre ». Et donc, eh bien, ça aussi, c'est en train de partir sur Internet.
Quand je vais dans mon hypermarché en Normandie, pour ne pas le citer, mon Leclerc, il y a toujours autant de monde, Axel. Hein. Je vous garantis que les gens vont toujours faire leurs courses.
Non, les hypermarchés sont en crise. Demain, d'ailleurs, il y a Auchan qui va annoncer un plan de 1000...
Mathieu Charrier a aussi un avis sur le commerce. Hein.
Il fait le départ volontaire. Non. Le modèle, c'est la France qui a inventé l'hypermarché. Hein. C'était Saint-Geneviève-les-Bois en 1963. Ouais. L'hypermarché est en crise.
Ça, c'est indéniable.
Ça, c'est indéniable.
Mathieu Charrier ?
Non, parce qu'on parle toujours aujourd'hui des circuits courts, des gens qui essaient de se fournir plus local, de savoir d'où ça vient. C'est quand même très antinomique avec le fait d'acheter sur des sites dont on ne sait pas d'où viennent
les ordres. Alors, vous avez raison. L'hypermarché est attaqué de toutes parts. Il est attaqué à la fois par le e-commerce et il est attaqué par tous les circuits courts, le bio, les petites boutiques, etc.
Voilà.
Oui, mais ma chronique, c'est l'hypermarché va mal.
Donc,
je ne juge pas.
Axel, les gens qui commandent de l'alimentation sur Internet, ils passent par les hypermarchés, par les marques des hypermarchés.
Et oui, alors vous posez l'excellente question. Ah. On va commander nos denrées alimentaires par Internet. Mais maintenant, il y a un choix. Est-ce qu'on va aller sur Auchan ou Carrefour pour commander ses denrées alimentaires ou est-ce qu'on va aller sur Amazon?
Voilà. Ah oui.
Eh ben non.
Que font les Français?
Il y a un vrai débat.
Ben
jusqu'à présent, Auchan et Carrefour avaient gagné. C'est la technique du drive. Aujourd'hui, les gens achètent beaucoup sur Internet. Depuis leur salon, ils commandent. Et vous savez, ensuite, ils vont dans le magasin, on leur met les cartons dans le coffre. C'est le drive. Mais sauf que de plus en plus, maintenant, ça, c'est un peu daté comme technique. Maintenant, les gens veulent la livraison à domicile.
Ah oui, c'est vrai. Ça ne marche pas, le drive.
Ouais, le drive, les gens en ont un peu assez. En fait, ils trouvent que c'est mieux d'avoir ces courses qui arrivent. Et donc, la livraison à domicile, pour le dernier kilomètre, Amazon est imbattable.
Mathieu Charrier.
Mais d'ailleurs, Amazon, pour l'instant, ne livre qu'avec des partenariats avec Monoprix, etc. Donc, il s'appuie sur la grande distribution.
Voilà, le signal inquiétant, c'est Monoprix qui a décidé de faire la livraison à domicile, qui a essayé de le faire tout seul. Ils n'y arrivaient pas et donc ils ont fait appel à Amazon. Ben voilà. Vous voyez, Amazon, commence à mettre un pied dans la livraison alimentaire.
Sandrine Bonner, vous êtes plutôt achat en supermarché, en hypermarché, circuit court ou Amazon?
Moi, je suis plutôt... puis j'ai la chance d'habiter un quartier où il y a beaucoup de commerçants, de petits commerçants. Cher, par contre, hein, Paris. Mais je privilégie le boucher de quartier, le primeur de quartier, ce genre de choses.
Mais encore faut-il le pouvoir, parce que le problème, c'est qu'à Paris, on peut le faire. Moi-même, je
voilà,
le fais.
Mais en province,
il n'y a plus
banlieue,
le petit boucher, il n'y a plus le fromager.
Ouais, c'est vrai. Voilà.
Alors, de plus en plus, les maires essayent de faire en sorte de fermer ces zones commerciales à la périphérie des villes et de faire renaître un centre-ville. C'est une attaque supplémentaire contre le modèle de l'hypermarché.
Qui décidément se porte mal, contrairement à ce que disait M. Charrier.
Je ne fais absolument pas la défense des hypermarchés.
Oui,
je suis
prêt
pour... ça ne sert à rien que j'aille faire ma formation contre la corruption. je suis parfois capable d'un regard très lucide.
À mon avis, il y a deux visites qui viennent vous chercher. Un coup de fil du patron de Carrefour, à mon avis, et ça peut faire basculer votre jugement. Je vous connais. Merci Axel de Tarlé. Mathieu Charrier, un mot fair play pour saluer quand même le travail de votre rival, mais néanmoins confrère.
Si on ne l'avait pas, je ne suis pas sûr qu'il faudrait l'inventer.
Merci pour lui.
16h-18h sur Europe 1, l'équipé sauvage.
Avec Mathieu Noël, Eva Roch, les journalistes compétiteurs de la rédaction d'Europe 1, comme tous les après-midi, même le week-end. Et vendredi dernier, vous venez parfois à la rencontre de l'équipé sauvage, l'émission est en public et Mathieu Noël recevait donc vendredi le duo d'acteurs Camerad et Sabrina Ouazani.
L'équipé sauvage continue. Deux heures d'informations rieuses ou de rire informant, selon le point de vue qu'on adopte. Deux heures également à la pointe des nouvelles technologies, comme va vous le prouver François Coulon, notre correspondant dans l'Ouest, qui nous parle aujourd'hui d'un robot anti-OFNI, c'est-à-dire anti-collision, qui va peut-être changer la vie des marins en les empêchant de heurter des objets ou des animaux, comme par exemple CAD, des mouettes.
Une mouette glisse.
Oui.
Sur cette vaguelette d'or, un soleil de plomb gesticule au-dessus de mes mains. Les mailles du filet rentrent en crevetté. Winston Churchill.
Sacré Winston. Bonjour François Coulon.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous et bonne année.
Bonne année à
vous. On dirait un titre de film, faut bien le dire. Vous allez nous parler d'Oscar, le traqueur d'OFNI.
Oui, alors on parle bien d'OFNI, hein, ces objets flottants non identifiés, rien à voir avec les ovnis qui, eux, volent beaucoup plus haut. Là, on a affaire à ce qui terrorise littéralement tous les navigateurs de course. Ce sont des troncs d'arbres, des conteneurs, des débris divers et même des mammifères marins, genre baleines entre deux eaux. Ils sont indétectables au radar et peuvent faire des dégâts considérables quand ils entrent en collision avec des voiliers. Alors, pour les repérer, Raphaël Biancal a inventé un robot prénommé Oscar.
Quand il n'y a pas de lune sur un bateau, la nuit, on voit rien. On navigue complètement à l'aveugle. Il y a beaucoup d'accidents avec des bateaux qui coulent. C'est comme jouer au dé. Oscar, c'est un système basé sur les caméras thermiques permettant de voir de jour comme de nuit, qui détecte des objets devant le bateau, qui les suit, regarde s'il y a un risque de collision avec le bateau. S'il y a un risque de collision, le système lance une alarme. Et si le skipper ne réagit pas à l'alarme, une prise en main sur le pilote automatique pour éviter l'obstacle de manière totalement automatisée.
Mais alors, est-ce que Oscar a déjà été testé, François ?
Alors oui, à moins d'un an du départ du Vendée Globe, Oscar, doté de trois gros yeux, a été placé en tête de mât d'une dizaine de voiliers de course et l'objectif est double. D'un côté, les skippers se familiarisent avec ce nouvel outil d'aide à la navigation et de l'autre, la société bretonne BSB Marine de Port-la-Forêt enrichit tous les jours la banque de données de son robot qui rencontre quotidiennement de nouveaux obstacles potentiels. Le plus dur pour lui, figurez-vous, c'est d'apprendre par exemple à distinguer une grosse vague ou un grand paquet d'algues d'un orque ou d'une palette.
Oui, parce que s'il donne l'alerte à chaque vague, ça va être un petit peu compliqué, François. Dernière question, François Coulon, le bien nommé, j'ai envie de dire, il est cher, Oscar ?
Humour. Alors, oui,
très bon.
Oui, il est cher. Autour de 24 000 euros pour l'instant. Mais l'objectif est de descendre sous la barre des 10 000 euros dès cette année. Ça devient beaucoup plus raisonnable pour éviter de se cracher contre une baleine, par exemple.
Merci beaucoup, François Coulon, pour cette innovation
en
Made in France.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage.
Et si vous n'étiez pas au rendez-vous cette semaine, profitez du week-end ou des podcasts pour revivre les moments phares de l'équipée sauvage, toujours emmenée par Mathieu Noël avec Eva Roch, sa complice et un invité d'honneur. Mercredi, c'était le chef cuisinier Olivier Rollinger pour son livre « Pour une révolution délicieuse ». C'est son titre paru chez Fayard.
Chaque après-midi, la grande battle des journalistes d'Europe 1 au service de votre culture G. Et pas que, puisqu'aujourd'hui, avec notre invité, le cuisinier Olivier Rollinger, on vous apprend à mieux manger, à ne plus vous exclamer bêtement devant les rayonnages de poissons panés Picard.
C'est un beau poissonnet !
Ni devant le rayon des glaces et sorbets.
Oh, du dessert !
Apprenons à nous maîtriser et à mieux consommer. C'est un souci que vous avez en vous depuis toujours, Olivier Rollinger, ou bien au contraire, ça a été une prise de conscience tardive ?
Une dizaine d'années. Les cuisiniers de renom, comme ça, ce qu'on appelle comme les grands chefs, ouais. On est resté trop longtemps, beaucoup trop longtemps, dans notre tour d'ivoire. On avait évidemment nos équipes, nos fournisseurs, nos clients, nos fournisseurs, nos petits producteurs. On voulait surtout les garder, on ne les partageait même pas entre nous, ouais. Parce qu'on ne voulait pas que le copain ait le même produit. Et on avait deux grands frissons par an. On avait le Guide Jaune, le Goemio, qui sortait en fin d'année, et le Guide Rouge, qui sortait en début d'année. C'était les deux grands frissons. Et on ne s'est pas occupé du tout de l'alimentation de tous les jours des gens qui vivaient autour, mais même nos familles dans nos communautés. Et c'est une grave erreur, parce qu'on a laissé la malbouffe s'installer. Et je pense qu'aujourd'hui, les cuisiniers, en tous les cas, moi je suis vice-président à l'international des cuisiniers relais châteaux dans le monde.
Vous avez une responsabilité.
Et on a cette responsabilité. Parce que si nous ne le faisons pas, c'est sûrement pas l'agro-business qui va le faire, c'est sûrement pas les banques, c'est sûrement pas les grandes surfaces. Donc il nous appartient d'être éthique et de montrer très simplement comment le plaisir de bien manger, c'est Et puis, cette France, qui est le pays des droits de l'homme, devrait être le pays du droit à bien manger et pas un privilège réservé à quelques-uns.
Le livre s'ouvre sur une anecdote qui peut-être est le déclic, la finale des Bocuse d'Or. Vous racontez une anecdote qui est édifiante.
Oui, c'est-à-dire que c'est quand même un concours absolument de renommée internationale qui porte le nom quand même de notre grand capitaine qui était Paul Bocuse. Et aujourd'hui, on voit des marques, enfin l'équivalent de la grande surface pour la restauration, qui vient s'insérer dans ce monde et vient totalement financer et qui ne représente pas la qualité des petits producteurs en France, des pêcheurs, des apiculteurs, des crémiers, des éleveurs, des maraîchers. C'est pas du tout ça, la cuisine française. Ça ne se fait pas en achetant ces produits dans ces mêmes.
Et ils le font, vos collègues, vos anciens collègues, sans même trop y réfléchir. Vous, le jour où vous décidez de ne pas porter cette marque, vous voulez l'enlever pour ne pas cautionner ça.
Vous essayez de la cacher.
Vous avez envie de dire à vos collègues, mais demandez-leur au moins de l'argent, 10 000, 50 000 euros que vous donnerez des associations contre la faim et les sans-abri. Cessez d'être naïf et de vous faire avoir.
Mais complètement. Là, on nous utilise comme des gogos.
C'est ça. Alors, elle, Olivier Rollinger, la dernière fois qu'elle a essayé de se mettre en cuisine pour nous sortir un petit plat, le résultat a été, comment dire ?
C'est pas gluant, c'est autre chose, quoi. Et c'était extraordinaire.
Oui, alors autant dire que depuis, pour les repas entre collègues, on privilégie le restaurant.
Vous êtes vraiment méchant, parce qu'à chaque fois que je vous fais des gâteaux, ils sont très bons.
C'est vrai.
Alors, je réfléchis. Oui et non. Pour me manger, j'ai inventé le concept sadique du quiz opposant Eva à l'invité dans un domaine qui clairement n'avantage pas Eva. Olivier Rollinger, aujourd'hui, Eva Rock va vous défier sur votre propre terrain, celui de la nourriture. C'est un vrai faux. C'est parti. Eva Rock, attention, il existe un site de rencontre pour celles et ceux qui ont aussi comme passion la cuisine et le bien manger, c'est le site Marmite Love. Vrai ou faux ?
Bah alors là, malheureusement, je pense que je vais avoir la bonne réponse parce que je pense que c'est vrai. Enfin, je sais que ça existe.
Vous êtes inscrite ?
Non, je suis pas inscrite.
Commencez pas. Sexy Soca 69.
Non, c'est pas moi, Sexy Soca. Mais je sais que ça existe les sites de rencontre pour les gens qui aiment faire la nourriture.
Bonne réponse. Sur le site, il est écrit pour les gourmets et les cœurs d'artichauts en quête de coup de food.
Et par exemple, les écoles de cuisine, ce sont des lieux de rencontre.
C'est chaud un peu dans les.
Ah, mais c'est chaud, mais c'est amoureux, c'est sensible. Et puis, est-ce que la cuisine n'est pas déjà. C'est un acte d'amour de cuisiner.
C'est pas faux.
Inscrivez-moi tout de suite là.
Mais je vous inscris. Ça vous va, Sexy Soca?
Oui, c'est très bien.
Olivier Rollinger, si vous prenez un épi de maïs dans la main et que vous comptez les rangées verticales du maïs, il y en a toujours un nombre pair. Vrai ou faux ?
Je pense que c'est faux.
Vous pensez que c'est faux, Olivier
Rollinger ?
Vous mettez vos trois étoiles en jeu ?
Totalement.
Eh bien, je vous enlève une étoile, c'est vrai ! Il y a entre 750 à 1000 grains. Quant aux rangées, il peut y en avoir de 8 à 24, mais c'est toujours, toujours un nombre pair. Fascinante nature.
c'est ça que je trouve un petit peu désolant.
La nature parfois est symétrique. Eva Rock, en Swahili, langue parlée en Ouganda, au Burundi, au Rwanda, dans le sud de la Somalie, au Kenya, je crois aussi, pour dire noix de coco, on dit coconas. Vrai ou faux ?
Mais c'est ça, mais insultez-moi aussi. Non.
Coconas.
Non, c'est faux.
C'est faux ?
Oui, c'est faux.
Vous êtes sûr de vous ?
Oui, je suis sûr de moi.
Je vous donne une dernière chance, vous êtes sûr de vous ?
Oui, je suis sûr de moi.
Faux. Mais coconnas, c'était pas trop mal puisqu'on dit nazi.
Non.
Parce que, exactement, ce qui n'est guère mieux.
On dit nazi pour une autre coco ?
Exactement.
Quelle horreur.
J'ai pris un nazi sur la tête. Olivier Rollinger, vous connaissez Yesterday des Beatles ? Attention, c'est la question qui va vous départager. Eh bien, à l'origine, le groupe avait choisi pour titre Scrambled Eggs, ce qui signifie œufs brouillés, à la place de Yesterday. Vrai ou faux ?
Moi, je pense. Aimant beaucoup les Beatles, je ne suis pas certain qu'ils avaient un palais très affiné, mais. Mais ça leur va bien, puis c'est tellement anglais.
Scrambled Eggs, c'est vrai. McCartney, votre ami Polo, l'ami de Jean-Philippe Alas, a composé d'abord la musique. Mais d'ailleurs, c'est peut-être vous, Jean-Philippe, qui avez dit de Scrambled Eggs. Il a d'abord composé la musique, Paul McCartney, avec Lennon. Ils ont mis des mois avant de trouver le bon texte. Le leader des Beatles a même déclaré avoir été un peu triste d'avoir trouvé Yesterday parce qu'il avait une tendresse pour Scrambled Eggs.
Ouais.
Oui, Jean-Philippe, vous vouliez dire quelque chose.
Scrambled Eggs, bébé, I love your legs. Bébé, j'adore tes jambes.
Ça sonnait vraiment bien. Écoutez, pour la blague, Paul McCartney l'a chanté chez Jimmy Fallon.
Scrambled eggs.
Ah, génial.
Oh my baby, how I love your legs.
Ah oui,
not as much as I love scrambled eggs.
Et je crois que, blague à part, c'est le seul et unique enregistrement de la version originelle de Yesterday.
Chez Jimmy Fallon.
Ah, magnifique.
Est-ce que ça aurait connu le même succès? On ne sait pas. Qui remporte ce quiz? C'est Olivier Rollinger qui remporte le quiz. Oui, parce qu'on a doublé ses points. Qui aurait pu penser qu'un jour, un chef triplement étoilé triompherait des baroques sur un quiz consacré à la gastronomie? Comme ça permet de ne pas changer mon texte. Décidément, le monde est fou.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Avec Mathieu Noël et Varoc, qui est à présent le monsieur innovation d'Europe 1, Anissé Ambida, qui s'est intéressé aux écrans télé de demain. Il présente son sujet à l'invité de mardi, le romancier dramaturge David Fuenquinos.
Au lendemain de la rencontre adultérine la moins discrète de l'histoire du PAF, le coup de foudre en direct entre Sandrine Bonner, notre invitée, et le goujat du Big Data, notre expert informatique, Anissé Ambida. Alors, heureusement qu'en fin d'émission, en toute fin d'émission, Sandrine Bonner a eu la présence d'esprit quand même de calmer le jeu et de rappeler à Anissé qu'il était marié, sinon ça partait vraiment en sucette. Anissé Ambida, pourquoi voter pour vous ?
J'étais amoureux de Sandrine Bonner et que je sens que je suis en train de le redevenir.
Qui, selon vous, parmi les journalistes d'Europe 1, mérite d'être élu chroniqueur du jour ?
D'abord, vous êtes marié, vous avez deux enfants.
Une belle histoire qui s'arrête net !
C'est foutu, notre histoire.
Ça peut être épistolaire, ça peut être tout ce que vous voulez, moi je prends.
Mais c'est trop facile, Anissé.
Alors Anissé, on se ressaisit, on se reconcentre sur l'objectif journalistique, la couronne de chroniqueur du jour, et aujourd'hui, vous nous emmenez dans le futur pour acheter une télé. C'est moins sexy.
Ouais, parce que
c'est moins romantique.
Parce que les télés de demain, ça c'est un peu la bonne nouvelle, n'auront rien à voir avec les télés qu'on a aujourd'hui. Elles vont complètement changer.
Je vois pas comment, vous allez nous expliquer.
Parce que vous l'avez remarqué, elles sont de plus en plus grandes aujourd'hui, les télévisions. Donc on se retrouve dans nos maisons avec des écrans complètement noirs. Ça prend de la place, c'est de plus en plus imposant. Donc du coup, on la garde allumée parce qu'on ne veut pas avoir cette espèce d'objet noir. Et donc les fabricants travaillent à faire disparaître la télé. Et chez LG, par exemple, on travaille sur une télévision transparente. Donc on aura l'impression d'avoir une plaque de verre en face de soi.
Ouais.
Sauf quand on appuie sur la télécommande, hop, la plaque de verre se transforme
en
véritable télévision.
Pas un pro de la déco, mais avoir une plaque de verre qui fait pile 106 de diagonale,
c'est plus joli.
Ça peut éveiller les soupçons quand même. On peut se dire, ça ressemble à une télé quand même.
Mais c'est quand même plus esthétique qu'un écran noir, qu'un gros truc noir.
Vrai,
en plus, l'avantage de la plaque de verre, c'est qu'on peut l'intégrer à un meuble, on peut la mettre dans un coin. Ça ne gênera pas qu'aujourd'hui, vous mettez votre télé au milieu du salon. C'est un vrai problème. Chez Samsung, on a fait autre chose. On a complètement supprimé les bordures, vous savez, qu'il y a autour de l'écran. Et on a éclaté l'écran en petites dalles modulaires. Ça veut dire qu'on pourra se fabriquer un écran de la taille qu'on veut en mettant les petites dalles les unes à côté des autres et en faisant une espèce de Lego avec les dalles. L'idée, c'est de pouvoir transformer n'importe quelle surface en écran.
Est-ce que ça sera plus simple à monter que le bateau pirate de Lego? Parce que moi, j'ai bien galéré avec le bateau pirate de mon fils. Soi-disant, c'est à partir de 7 ans. Bah, je peux vous dire que moi, j'en ai 37. Et j'ai mis un peu de temps. Hein.
Vu qu'il n'y a que 4 faces avec des clips de chaque côté pour
ça
se tromper, vous me connaissez mal. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir les coller sur les meubles, sur les portes, sur le plafond, etc. Et du coup, on pourrait afficher des photos, on pourrait afficher des petites télé où on veut, on pourra avoir des tableaux. Et c'est l'idée, c'est d'avoir des télés qui font en même temps des dalles de décoration. Donc on peut avoir un grand mur pour la télévision, mais aussi juste simplement afficher des couleurs ou des formes à gauche, à droite.
Anissé, je veux pas
saper votre enthousiasme, mais moi personnellement j'ai la chance d'avoir chez moi une télé de la marque que vous avez citée, qui est une télé tableau. C'est déjà un tableau en fait, ça existe déjà, hein, vos
oui,
télés du futur.
Oui, que... mais vous pouvez pas l'avoir de forme modulaire, vous pouvez pas la mettre sur un petit meuble, sur un.
Bah, je fais ce que je veux, il y a même un pied qui est vendu avec, je peux l'exposer comme un tableau.
Oui, mais elle fait minimum, oui, elle fait minimum 32 pouces, hein, votre télé, j'imagine.
Ah, effectivement.
Ça veut dire 70 centimètres.
Les chroniqueurs.
C'est mon métier, David.
Il cherche une nouvelle télévision pour remplacer sa Samsung.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
On pourra avoir
la cité la marque. Vous pouvez envoyer
la nouvelle. On pourra avoir des éléments pratiques. Ouais. Combien ça coûte
comme tous les nouveaux modèles, hein, c'est comme les premiers plasmas, ça coûte 60-70 000 euros, donc ça coûte extrêmement cher. Mais comme d'habitude,
ah ben
dans
voilà.
ce monde de technologie,
fallait commencer
ça baisse. Non, mais ça baisse énorme, ça allait extrêmement vite. Baisse, est-ce que vous vous souvenez du prix de la première écran plat? Ça coûtait,
c'est vrai, je me souviens, c'était très cher.
Personne pourrait l'acheter aujourd'hui, ça coûte 200-300 euros. Il y a une autre technique aujourd'hui, vous savez qu'on vous a bassiné avec la 3D pendant des années.
C'était 3D ready, 3D ready, tout ça.
Aujourd'hui, on a abandonné la télé, maintenant on veut aller beaucoup plus loin, on veut quasiment faire des télés holographiques.
Qu'est-ce que ça va être, ça?
L'idée
on va voir Mélenchon qui
c'est
sort de la télé.
Exactement. Plutôt que d'avoir un écran plat qu'on accroche au mur, mais là, on va le mettre à plat sur sa table basse et on va projeter des hologrammes exactement comme Mélenchon. Et l'intérêt, c'est justement d'avoir les mêmes effets qu'au théâtre, mais directement dans son salon, puisqu'on pourra tourner tout autour de sa table et voir les acteurs sous les différents
angles. Le théâtre filmé qui avait été si critiqué va enfin prendre ses lettres de noblesse.
Vous allez pouvoir avoir Sandrine Bonnaire chez vous.
Il risque d'en abuser, le petit sagouin.
Ce qui est intéressant, alors il y a plusieurs sociétés qui travaillent déjà dessus, c'est Looking Glass, où il y a un français qui s'appelle Leia, alors Leia comme la princesse Leia, l'hologramme de Star Wars. Alors pour le moment, ils sont surtout utilisés par les bureaux d'études pour afficher des maquettes en trois dimensions, et on imagine que sur la télévision, ça va prendre un petit peu plus de temps, puisqu'il faut filmer en 3D avant de pouvoir le diffuser en 3D, en hologramme, dans son salon.
Là, le prix de départ, à mon avis, sera quand même assez dissuasif. Hein.
Bah, figurez-vous que c'est un peu moins cher.
Ah bon?
Oui, c'est un peu moins cher. On est dans les 10, 20 000 euros.
C'est vrai.
Parce que c'est des surfaces qui sont un peu moins grandes. On n'est pas obligé d'avoir quelque chose d'énorme comme les autres. Et c'est déjà commercialisé par rapport aux autres qui sont encore des prototypes et qui coûtent extrêmement cher.
Eh bien, merci Anicem Bida. Vous essaierez de m'obtenir 10% sur tout ça.
Ou alors, autant aller au théâtre directement, c'est 20 euros.
C'est 20 euros pour aller voir les pièces de David Foligno. C'est un bien meilleur rapport qualité-prix.
16h-18h sur Europe 1.
L'équipé sauvage.
2 heures pour se détendre et apprendre. C'est la promesse de Mathieu Noël chaque après-midi sur Europe 1. Au menu, des sujets étonnants, passionnants ou pertinents et des invités d'honneur. Ce jeudi, Mathieu Noël était en compagnie de l'un des auteurs les plus attendus de ce début 2020.
En compagnie de l'écrivain Éric Orsenna qui publie chez Gallimard « Briser en nous la mer gelée », un roman qui parle de l'amour avec un grand A. Pas de ces amours fugaces qui rythment la vie des baroques, aussitôt consommés, aussitôt oubliés.
Comment il s'appelait le mec de l'an dernier? Le Mexicain?
Bon, vous voulez vraiment que je vous rappelle son nom en présence d'Éric Orsenna? Non. Alors, Éric Orsenna, ne tournons pas autour du pot. Est-ce qu'à 70 ans, je vais enfin comprendre quelque chose à l'amour?
La réponse est oui.
Et le sentiment amoureux, quand on a passé, disons, 60 ans, il est différent du sentiment amoureux qu'on peut avoir à 20 ans?
Ben, écoutez, quelque chose me dit qu'il est plus riche. Shakespeare dit quelque chose de formidable, c'est que les femmes qui ont pris de l'âge sont plus diverses. Parce que, évidemment, les années sont venues les nourrir. Et moi, j'aime bien les traces, vous savez, j'aime bien les rides, j'aime bien les histoires, Je suis fou d'histoire. Pour moi, quand... Vous savez, on dit un amour, c'est une histoire. Il a une histoire, il a une nouvelle histoire. Est-ce que c'est une grande histoire? Et donc, plus vous avez vécu, plus vous avez d'histoire. Donc, on peut être bouleversé à tous les âges. On ne sait pas ce qui va se passer.
Autre question que nos auditeurs se posent, la jalousie est-il le signe indubitable de l'amour?
Vous pensez qu'Éric Orsenna est coach love?
Exactement, mais j'espère ressortir de cette émission.
Alors
avec,
je vais vous dire, quand je vais rentrer avec, devant mes enfants, mes grands-enfants, en disant « Papa, t'es un coach love », s'ils ne parlent pas comme ça, mais t'es un coach love, alors là, ils vont hurler de rire parce que mon dossier est quand même pas si bon que ça.
C'est vrai? Il y a eu des râteaux, Éric Orsenna?
Il y a eu des râteaux, absolument. Je suis fort en botanique, et notamment râteaux.
Et en jalousie, vous êtes fort ou pas?
Je suis assez fort en jalousie, c'est vrai, assez fort en jalousie. Mais quand vous avez quelqu'un qui vous dit qu'elle n'est pas jalouse du tout, c'est quand même une sorte de l'indifférence. J'ai un souvenir sur la jalousie merveilleux. J'étais marié et puis cette femme avait rencontré quelqu'un. Et un ami m'a dit, écoute, pour te guérir, je sais que tu es jaloux et tu as, d'ailleurs, me dit-il, salaud, tu as raison d'être jaloux.
J'ai même des photos.
Genre, oui, j'ai des photos, j'ai des adresses, j'ai des lieux, j'ai des dates et tout ça. Et il dit, un amour de Swann. Et tu verras que tu es nain dans tes inventions de la jalousie. Tu es un petit, tu as rien du tout, tu es un Mickey dans l'invention de la douleur. Donc, lis Proust, tu verras qu'on peut être beaucoup plus malheureux que toi. Donc, fais des progrès en malheur et enfin, tu verras si tu es peut-être un petit écrivain et en tout cas un grand amoureux.
Les leçons d'amour d'Éric Orsenna qui passe l'après-midi sur Europe.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Éric Orsenna, écrivain bien sûr, mais écrivain engagé. Vous avez par exemple participé avec l'ancienne ministre de la Culture Françoise Nyssen à l'élaboration d'un rapport sur les bibliothèques en France. Quelles mesures ont été prises au lendemain de ce travail? Est-ce que c'est satisfaisant?
Eh bien écoutez, la plupart des rapports aboutissent à la poubelle.
Exactement.
Alors que ce rapport a permis d'ouvrir plus. Puisqu'on a le premier bilan, et grâce à l'appui de ministre qui a aussi succédé, Franck Riester, on a pu ouvrir sur une zone qui donne la possibilité à tous ceux qui habitent dans cet endroit-là de la France, c'est-à-dire 9 millions de personnes. On a ouvert les bibliothèques et les médiathèques de plus de 8 heures. La deuxième chose, c'est qu'on a lancé, et c'est en train, une formation des bibliothécaires.
Mais il y a des chiffres là-dessus. Il y a du monde dans les bibliothèques aujourd'hui.
Mais évidemment,
parce que...
il y a du monde dans les bibliothèques.
Il y a des jeunes.
Mais évidemment, c'est justement ça. Alors, on me dit, mais de toute façon, vous, la culture, vous en foutez. Ce qui vous intéresse, c'est juste l'animation. Pas du tout. On commence par, c'est vrai, des jeux électroniques qui viennent. Mmh. Et puis, et tiens, et pourquoi pas? Et pourquoi tu ne prendrais pas ce livre-là? Vous accueillez un jeune, vous lui dites, bon, les électroniques, et si tu essayais de lire? Pourquoi pas?
Ce que vous nous dites, Éric Orsenna, c'est que votre curiosité, qui est atavique en tout cas, est consubstantielle à votre être. Beaucoup de mots compliqués pour ne pas dire grand-chose finalement.
Oui. Vous êtes très curieux,
cette
quoi.
Curiosité, elle s'apprend. On peut apprendre la curiosité, on peut devenir curieux quand on n'est pas naturellement.
Oui et non, mais vous savez, c'est l'origine du mot. Et là, je prends mon maître en terminologie, Jérôme Lacroix. C'est l'origine du mot. Le mot curiosité vient du latin cura, qui veut dire cure, comme dans curatif. Donc, le curieux est celui qui prend soin du monde. Donc, rien n'est pire que cette phrase, la curiosité est un vilain défaut. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'indifférence qui est une horreur, la curiosité. Et donc, dire simplement à la personne qu'on aime ou qu'on a en face de soi, mais comment ça va? Et écouter la réponse.
Oui, souvent, on n'écoute pas la réponse. Moi, souvent, je leur demande comment ça va, mais je suis déjà parti.
C'est ça l'affaire. C'est le deuxième temps. C'est écouter la réponse. Donc, la curiosité, c'est un propre d'humanité, simplement.
Comme Eva s'apprête à dire une vacherie, nous allons enchaîner rapidement. L'équipe est sauvage continue. Les amis, Éric Orsenna, je vous présente celui qui, chaque soir, fait rimer gourmandise et culture. Puisqu'il ne se contente jamais de nous livrer une simple recette, ce qui est passionnant avec ce gourmet à l'érudition incomparable, c'est que chacune de ses recettes est accompagnée d'une histoire de plat. Un récit d'une précision toujours épatante.
Et c'est un plat traditionnel qui remonte à bien longtemps.
Oh là, oui. Oui, Éric Orsenna, je ne vous cache pas que parfois on se dit...
Et c'est vraiment pas casser le cul.
Mais on l'aime quand même. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Bonjour Éric Orsenna. Je suis vraiment très impressionné d'être là. Bon, académicien, Goncourt, très bien ça. Mais surtout...
Mais surtout, dans revers de la main.
Membre du club des 100, ce club de gourmands de fines fourchettes, membre de l'Académie du vin de France, là ça force vraiment mon respect, et je crois même ancien, chevalier du Tastevin.
Et absolument, et ancien critique gastronomique chez Gomio.
Ben voilà. Et moi, vous avez préfacé plusieurs livres, dont celui de Frédéric, de mon ami Frédéric Simonin, tout à fait récemment.
Maître, magnifique avec lui. Et j'étais hier à une cérémonie que j'adore pour remettre les prix des meilleurs ouvriers de France.
Voilà, ça c'est beau.
C'est-à-dire dans tous les domaines, l'excellence. Il n'y a pas de hiérarchie entre les métiers.
Pouls, tâchez d'être bon.
Ah bah oui, alors aujourd'hui je vous offre une recette qui, je l'espère, va faire vibrer un petit peu la corde de votre enfance. On va parler de bœuf carotte. Et je crois que vous avez une passion pour ce plat.
Ah oui, absolument. C'est un plaisir. Qu'on appelait autrement bœuf mode.
Oui.
Bœuf mode.
Et pour faire un petit peu d'étymologie et rebondir à la chronique de Jérôme, les bœufs carottes, ce sont aussi, c'est ce qu'on appelle la police des policiers.
Mais oui, mais pourquoi?
Ah ben bah voilà pourquoi.
Et bien pourquoi? C'est ce qu'on appelle la brutalité de la cuisine.
Parce qu'on dit que lorsque les policiers sont confrontés à l'inspection générale, ils les font mijoter longuement comme un bœuf carotte.
Ça vient de là.
Ça vient de là. Vous voyez, aujourd'hui, on aura vraiment appris beaucoup de choses.
Vive la langue, incroyable. Vive la langue. La langue est vivante. Alors, et ça donne faim, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
On approche du dîner.
On commence à avoir faim.
On approche du dîner.
Ben, une petite recette de bœuf carotte, alors.
Allez-y.
Tout d'abord, on va choisir les morceaux de bœuf. Moi, je mets de la joue, du paleron. Peut-être un petit morceau de gîte aussi.
Oui.
Il nous faut des carottes, évidemment, on est en pleine saison. Il nous faut un oignon, un peu de vin blanc.
Ah bah, toujours. Et toujours. Vous prenez quoi comme vin blanc?
Alors, bon, on va pas prendre le meilleur vin blanc de la cave.
Non, mais quand même.
Mais on pourrait prendre un petit Bourgogne tout simple.
Un petit truc, un petit aligoté, comme
ça. Oui, par exemple.
Il n'y a rien de meilleur pour libérer que l'aligoté.
Et puis, de toute façon, il faut mettre un vin... quand on cuisine avec du vin, il faut que le vin soit quand même assez bon, parce que c'est le goût de la sauce.
Pas lésiner.
On va faire... il nous faut un oignon aussi, donc on va faire revenir nos morceaux de viande dans un petit peu de matière grasse. Avec l'oignon, on va faire fondre tout ça, on va rapidement faire revenir les carottes aussi qu'on aura coupées en morceaux. Mais ensuite, on va ressortir les carottes parce qu'elles ne doivent pas cuire aussi longtemps que la viande. On va rajouter notre vin blanc, un peu d'eau ou un peu de bouillon de volaille si on a.
Mais comment vous en mettez le vin blanc? Vous mettez toute la bouteille?
Ah non, non.
Malheureux.
Bah, il n'y aura plus rien à boire.
Bravo.
C'est pour ça qu'il ne faut pas lésiner. Il ne faut pas lésiner, il ne faut pas mettre un vin nul comme ça dedans.
Après, le reste de la bouteille, vous la buvez pendant que le bœuf carotte mijote, parce qu'il doit quand même mijoter pendant 2 ou 3 heures.
Ah oui, donc c'est une recette express, pas trop express.
Il faut écouter le mijotement. Vous tendez l'oreille. Et vous écoutez le mijotement.
Blop, 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 blop.
On fait ça bien tous les
magnifique.
Deux. D'ailleurs, on va faire un
tandem.
Duo.
Bœuf, carotte. Et donc, une fois que ça a mijoté, un quart d'heure, 20 minutes avant de servir, vous allez remettre vos carottes. Parce que les carottes cuisent assez vite.
Exactement.
Et puis, y a plus qu'à passer à table et aller chercher une autre bouteille, parce que bien évidemment, celle qu'on a ouverte pour en mettre dans les... elle est vide. Donc, on va chercher autre chose.
Le désespoir.
Est-ce que vous ne rajoutez pas, parce que moi je rajoute ça vers la fin, parce qu'il ne faut pas que ça cuise trop quand même. Et au fond, une expression que mon maître en terminologie, Jérôme Lacroix, pourrait expliquer, et qui résume au fond l'équipe de l'équipe Est Sauvage, qui s'appelle le bouquet garni.
Ah oui, un petit bouquet garni pendant la cuisson.
Parce qu'un brin de thym, ça ne fait pas mal.
Non, ça va parfumer la sauce.
Le thym.
Je suis tout à fait d'accord.
D'ailleurs, et on pourrait demander d'ailleurs aux auditeurs de nous envoyer l'orthographe du mot thym.
Oula.
On serait surpris. On risque de rester surpris.
Et ceux qui gagnent auront, je ne sais pas, 15 jours en Tunisie.
Oui. 15 jours en Tunisie. Mais vous êtes sur Europe 1 et quand ça n'en a pas les moyens, un dîner avec Olivier Pouls tout au plus.
Avec les audiences qui montent, vous allez avec.
C'est vrai. Bientôt, j'irai chercher une belle bouteille de Beaujolais pour accompagner notre bœuf carotte.
Un morgon. Merci beaucoup, Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedi dans la tête des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage.
Et bienvenue à vous si vous venez de nous prendre en route. C'est l'équipée sauvage, notre compilation du week-end avec Mathieu Noël, Eva Rock, les journalistes d'Europe 1 qui se sont engagés dans une compétition gentiment féroce, mais dans une ambiance éminemment joyeuse. 2 heures donc pour apprendre et se détendre. Et à chaque jour un invité. Ils sont venus cette semaine, l'écrivain Eric Orsenna, mais aussi David Fuenquinos. David Fuenquinos avec qui on a parlé théâtre. Le chef Olivier Rollinger et son livre de recettes conviviales. Le duo Cadmerade et Sabrina Ouazani pour le film Une belle équipe. Et puis la comédienne Sandrine Bonner à l'affiche de Cas Contraire qui sort en salle ce mercredi. Cac comme kétamine.
L'équipée sauvage continue avec Sandrine Bonner. 2 heures sur cet étroit filin qui sépare le journalisme du divertissement. 2 heures aussi au plus proche de vous, chers auditeurs, au plus proche de vos préoccupations, de votre quotidien. Bon, sauf quand on reçoit Cadmerade et qu'il se fait une tache sur son pull.
C'est filmé ? Je lui ai filmé un pull de... Qu'est-ce que c'est celui-là ? Louis Vuitton.
L'équipe est sauvage, parfois proche de vous, notamment grâce à notre décrochage régional qui parfois, quand on a du budget, se transforme même en décrochage international. Bonjour Hélène Kohl.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Hélène, vous êtes notre correspondante en Allemagne. On connaissait l'expression « s'en remettre à Dieu ». Eh bien, une paroisse de Wuppertal, dans l'ouest de l'Allemagne, a décidé de s'en remettre à Netflix pour trouver l'argent nécessaire à la rénovation du clocher de son église. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Hélène ?
Eh bien effectivement, depuis la semaine dernière et pour 14 jours au total, le sommet de l'échafaudage qui entoure l'édifice religieux est recouvert de gigantesques bannières publicitaires pour Netflix, pour la plateforme de streaming. Ça fait comme un gros cube visible de partout dans le centre-ville de Wuppertal. Et sur les faces de ce cube, il y a donc une pub pour l'une des toutes dernières séries de Netflix, Messia, qui imagine en fait le retour de Jésus parmi nous dans le monde actuel.
Jésus en 4x3 au-dessus de la ville donc.
Exactement, alors ça tombe plutôt bien, hein. Imaginez si on avait eu des affiches de Breaking Bad ou même de New Pope. Hein. La paroisse n'a pas accepté en fait sans avoir étudié la question, ils s'y sont mis à trois théologiens, ils ont fait en fait l'exégèse de la bande-annonce de Messia et finalement ils ont jugé que c'était pas trop un blasphème. Il faut préciser aussi que c'est une paroisse protestante et donc le bâtiment religieux en soi n'est pas sacré comme nous l'explique la diaconesse Sabine Dermann.
Je pense qu'il doit y avoir des limites. Une pub directement sur l'autel, par exemple, ce n'est pas possible. Dans l'église, il faut pouvoir se concentrer sur la parole prononcée. Et une pub pourrait déconcentrer les fidèles. Mais sur le bâtiment à l'extérieur, je ne vois pas de problème.
Et la femme d'église est même assez fière de son coup, car depuis qu'elle a donné son feu vert à cette publicité, elle a regardé l'intégralité de la série et elle est accro, figurez-vous.
Ah, on a envie de savoir, Hélène, ça rapporte combien d'argent cette histoire ?
Alors, ça rapporte quand même 21 000 euros pour 2 semaines de pub, donc ce n'est pas négligeable pour cette petite paroisse qui a besoin au total de 1 200 000 euros pour rénover son clocher. Et puis en plus, le buzz autour de cette campagne de pub a le mérite de faire connaître la situation financière de l'église et d'intéresser les donateurs. Et effectivement, depuis que la pub est installée, la cagnotte a bien gonflé depuis quelques jours. L'église pense même accepter d'autres publicités après celle-ci, mais pas question quand même de vendre son âme au diable. Hein. Chaque proposition sera étudiée au cas par cas. Et par exemple, la diaconesse m'a dit, les sous-vêtements ou l'alcool, ça sera non.
Ah, oh, dommage.
Quel dommage. Ouais. Moi, j'ai bien des idées de publicité avec Eva Rock, mais je ne peux pas en parler pas. À cette heure-ci. Merci Hélène Cole, correspondante d'Europe 1 à Berlin.
16h, 18h, l'équipée sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Avec Mathieu Noël, sa complice Eva Rock et ses invités. Vendredi dernier, lors de l'émission en public, Kad Merad et Sabrina Ouazani étaient venus nous parler du film Une belle équipe. Vous écoutez l'équipée sauvage, le meilleur de la semaine.
2 heures pour étoffer votre culture G sans pour autant vous péter un neurone. 2 heures aussi pour vous surprendre, voire déstabiliser nos invités aujourd'hui, Sabrina Ouazani et Kad Merad. Et justement, Kad, très très chaud.
Kad. Oh, ta gueule. Pardon. Oh, mais lui,
il fait à la fois le public et l'invité. Kad Merad, t'as vu, Kad ? Je sens que la séquence qui suit va vous bouleverser.
Impossible.
Comment ?
Je suis un robot.
Mais non.
Titane, aluminium et haute cologne. Chaque centimètre carré de ma peau peut supporter jusqu'à 2 tonnes de poussée. Et j'ai les couillons de Kevlar, alors tu peux toujours y aller, mon petit bonhomme en mousse.
Non, mais c'était juste une formulation, Kad. Ah, on avait dit plus d'alcool pour les invités. J'aimerais à présent, mon cher Kad, que nous ouvrions l'album Souvenir. Ah, non, Kad est né en 64, sous De Gaulle. Voilà, mieux. Vous, Kad, la révélation pour le cinéma, vous l'avez eu vers quel âge ? Il paraît que c'était en 4e, avec une prof d'espagnol, Madame Rosas, qui vous a fait jouer du Garcia Lorca. Et là, vous vous êtes rendu compte, dans le regard de vos petits camarades, que vous étiez fait pour ça.
Faut que je réponde là, c'est ça ? Ouais. Parce qu'on ne sait plus. Hein.
Ouais, là, vous pouvez
ou en tout cas, oui, je me suis retrouvé sur scène, en fait, tout d'un coup, dans le réfectoire du collège Jean Lursa, à Ris-Orangis. Et il y avait les parents d'élèves, les élèves, et j'ai fait rire les gens, quoi. Et ça m'a plu, on ne pouvait pas savoir. Surtout que je n'étais pas un très, très bon élève, je ne savais pas trop où je pouvais aller. Et là, tout d'un coup, j'ai vu la lumière, comme on dit. J'ai vu où il fallait aller. Après, il fallait y aller.
Ouais.
Ça, c'est un autre problème.
Et ça a été un plus long chemin.
Ça a été un long chemin, mais franchement, là, c'est cette Madame Rosas qui doit sans doute peut-être écouter, qui de temps en temps m'envoie des petits mots, qui est à la retraite maintenant. Ouais, ouais.
Mais elle doit être tellement fière.
Bah, écoutez, j'en ai parlé au César, quand j'ai eu mon César. Oui. J'en parle tout le temps dès que je peux, parce que c'est vrai que c'est dans la vie comme ça d'un homme ou d'une femme, une personne peut presque changer un destin. Quoi.
Vous, Sabrina, comment vous êtes venue à ce métier ? C'était un casting, c'est votre mère qui vous a inscrit à un casting, et pas n'importe lequel, visiblement.
Exactement, c'est ma maman qui en emmenant ma petite sœur au parc de la Courneuve, a trouvé une affiche à l'arrêt du tramway. Et effectivement, c'était pour le casting de l'Esquive d'Abdelatif Kichiche.
Il faut dire quand même que ça tombe un peu super bien quand même. Parce que l'Esquive, avec le réalisateur qui ensuite va décrocher tous les prix, c'était bien vraiment inespéré.
Ouais, c'était fou. Et puis surtout, j'étais pas une seule seconde, ça me traversait l'esprit de me dire que je pouvais devenir un jour actrice. Et pourtant, effectivement, comme Kad, au moment où j'ai juste commencé à jouer, ce que j'ai ressenti dans le ventre, c'était complètement fou. J'ai compris que j'avais envie de faire ça. C'était ça que je voulais faire.
Une belle histoire. Kad Merad, Sabrina Ouazani, il y a comme ça dans la vie.
Non,
des moments charnières. Celui qui vient en fait partie. C'est le moment de notre quiz. L'invité est normalement opposé à Eva Rock. Et aujourd'hui, j'avais envie d'un duel de femmes. Eva, vous jouez contre Sabrina. C'est un vrai faux sur les femmes, en hommage à votre film Une belle équipe. Mais vous avez toutes les deux droit au Joker Merad. En gros, Kad peut, si vous le souhaitez, répondre à votre place.
D'accord.
J'adore.
Connaissez pas la réponse. Eva Rock, on commence avec vous.
Ouais.
Selon une étude américaine, une femme dort mieux avec son chien qu'avec son mari.
Oh merde.
Vrai ou faux ?
Bon, alors là, moi, j'ai un peu de mal
À quoi, dormir avec un mec? On
oui,
sait.
Voilà, c'est ça. Ouais,
c'est pas le sens de la question, là. C'est juste une question technique.
J'imagine
on dort
avec
bien,
un
pas.
Chien, tout ça.
Ça dépend, non, mais d'imaginer
ça dépend
pas
le chien, quand même. Excuse-moi.
Ah, oui, ouais. Exactement. Si c'est un petit...
Avec un pitbull, t'es pas, ouais, voilà. Pas sûr de bien dormir. Hein.
Et même avec un chihuahua.
T'es pas sereine. Bon,
qu'est-ce qu'on dit, Cad? On dit...
Moi, je dis que c'est possible.
Oui, on dit que c'est possible.
Heureusement que Cad est là. C'est vrai. Ça a été laborieux, mais c'est vrai. L'étude a été menée en 2017. Elle portait sur 962 femmes. En grande majorité, les femmes ont déclaré que dormir avec un chien était beaucoup plus réparateur et qu'ils amenaient un sentiment de sécurité. Et en plus, ils perturbaient moins le sommeil que les hommes. Je ne sais pas trop en quoi on perturbe le sommeil. Mais bon.
C'est super.
Sabrina Ouazani, oui. Le pare-choc sur les voitures a été inventé par une femme. Vrai ou faux?
Oh non, mais... Oh merde, faux.
Vous n'avez même pas consulté Cad.
C'est une femme, Brigitte Pare-choc, qui est... En 1928. Après, il y a eu Stéphanie Jante aussi qui a inventé les jantes parce que les femmes ont tendance à monter sur les trottoirs.
Bien sûr. Et Ginette Carter, ne
Ginette
l'oublions
Carter,
pas.
Alors,
la réponse, vous avez raison, c'est faux. Par contre, une Américaine, Mary Anderson, a conçu un dispositif automatique de nettoyage des vitres de voiture de l'intérieur en 1903. Elle a inventé l'essuie-glace.
Ah,
voilà. Eva Rock, Sabrina Ouazani, le 26 décembre dernier, James McGraw, pour fêter 25 ans de mariage, a donné une preuve d'amour particulière à sa femme Kelly. Laquelle ? 1. Il s'est fait tatouer sur les fesses le visage de sa femme qui ronfle, la bouche ouverte. 2. Il lui a tricoté une écharpe faite en poil de son propre torse. Ou 3. Il a fait un portrait de sa femme et de ses 4 enfants avec 6000 grains de riz.
Oh là là, bah, je dirais la 3.
Ouais, moi aussi, c'est un peu cuculapraline.
Ouais,
c'est cuculapraline à mort, ouais. Mais 3 plutôt que se tatouer sur les fesses.
Ouais.
Eh bien, n'oubliez pas que nous sommes aux États-Unis, tout est possible. Un très beau tatouage de sa femme dormant, la bouche grande ouverte en ronflant. Elle avait promis de lui payer un tatouage du motif de son choix. Quand elle est venue payer, elle a vu le résultat sur la fesse de son mari. Elle a déclaré « C'est la pire photo qui existe de moi. Nos plaisanteries sont devenues incontrôlables.
»
Tu m'étonnes. Sabrina Ouazani, en 2013 à Bali, une compétition de surf féminin a vu des surfeuses russes surfer en talons aiguilles sur la planche. Vrai ou faux?
Des surfeuses, c'est où?
C'est à Bali.
Genre, ça peut éventuellement m'aider,
ça,
tu vois.
Ça, c'est important.
Ah bah, la ville, quelle ville?
Il était quelle heure?
Parce que c'est important.
Parce
là.
Que tenir sur des talons 12, faut le faire.
Mais sur une planche de surf.
Sur une planche de surf, c'est quoi, j'ai envie de dire vrai?
Quel feeling. Oui, c'est vrai. L'organisateur de la compétition avait déclaré qu'à Bali, les vagues étaient trop hautes pour les femmes et qu'il n'était pas favorable à leur présence à cet événement. Pour protester et lui donner tort, une douzaine de surfeuses russes ont surfé en talons aiguilles. Et
trop bien.
Eva Rock, vous connaissez le signe qui représente le féminin, un cercle surmonté d'une petite croix. Eh bien, en fait, ça symbolise un miroir. Vrai ou faux?
Non, c'est faux.
Non, non,
Mathieu, elle a utilisé
qui,
deux fois le joker.
Pour qui tu nous prends, Mathieu?
Oui,
Mathieu,
non,
tu nous
prends Mathieu.
Bah, je vous prends pour des tocards parce que c'est vrai. Ce signe représente Vénus, la divinité de l'amour, et plus précisément le miroir que Zeus lui a offert en cadeau de mariage, dans lequel était enfermé le sourire, le doux parler, le silence expressif et l'éloquence des yeux. Je ne sais pas ce qu'il fumait sous l'Antiquité, mais c'était de la bonne. Qui remporte ce quiz, les amis? C'est Sabrina Ouazani qui remporte le quiz. Grand journaliste pour les uns, faussaire sentimentaliste pour les autres, Jean-Philippe Ballas ne mise jamais que sur la qualité de ses infos pour l'emporter dans cette émission. Son truc, faire chialer dans les chaumières.
Donc je dis aux auditeurs, pensez à ce que vous laisserez à vos enfants, même si on sait tous que nos plus bons souvenirs, ils sont dans notre cœur.
Nous reverrons.
Alors, parfois, la ficelle est un peu grosse, mais comme disait Chirac, plus c'est gros, plus ça passe. Jean-Philippe Ballas, faites-nous chialer.
Non, je vais vous faire danser peut-être, en tout cas swinguer. Allez, on se met dans l'ambiance. Vous avez reconnu, c'est que la grande nouvelle depuis quelques heures, on connaît le nom de l'interprète de la chanson du prochain James Bond. Elle s'appelle Billie Eilish.
Ah, c'est une fille.
Et là...
J'avais cru que c'était un mec, Billie.
Bah justement, je sens que le monde se partage en deux, soudain, chez les
jeunes
auditeurs.
Les jeunes et les vieux, c'est ça.
Oui, d'un côté, ceux qui connaissent Billie Eilish, et ceux qui ne la connaissent pas, c'est le retour du hockey boomer. On en a parlé souvent quand on est un peu largué dans cette émission. Alors, pour tout le monde, pas de panique, une petite remise à niveau, un petit extrait de ce qu'est Billie Eilish. So you're a tough guy, like you're really rough guy,
just can't get enough. Oh. Et oui, on l'a pas souvent dans notre émission, cette chanson. Maintenant, je le révise. Mais oui, bien sûr, Billie Eilish.
Alors, personnellement, moi, je la connaissais, mais j'ai pas grand mérite.
C'est-à-dire, vous la connaissez aussi bien que Mireille Mathieu ou pas?
Je la connais.
Jean-Philippe est un grand ami de Mireille Mathieu. Il a fait un beau reportage sur elle. Bon, bref, allez-y, Jean-Philippe.
Billie Eilish, je la connais surtout grâce à ma progéniture préadolescente, qui l'écoute beaucoup à la maison. Alors, elle est américaine.
On dirait un monstre, c'est progéniture préadolescente.
Elle a 18 ans et elle a écrit la chanson avec son frère et elle devient, du coup, la plus jeunes interprètes de l'histoire des bandes originales de James Bond. Alors ce sont des artistes qui sont toujours choisis avec grand soin par la production, parce qu'il faut être dans la hype, comme on dit, d'où parfois ce fossé des générations. Je me souviens d'ailleurs de mon vieux père à l'époque qui se demandait qui pouvait bien être ce Durand Durand. Et oui, ça c'était Duran Duran, le groupe anglais, View to a Kill, dangereusement vôtre, traduit en français. J'adore les traductions de
James Bond. Oui, les traductions en français, il y en a certaines qui sont un peu foirées, on peut le dire aujourd'hui. Oui.
Ça remonte, hein, c'est en 1985, à l'époque c'était Roger Moore qui incarnait James Bond. Et vous noterez dans la production que parfois les chansons de James Bond, elles prennent un petit coup de vieux, parce que forcément quand vous êtes hyper à la mode à une époque.
Oui, elles sont marquées par cette époque, les arrangements.
Un jour vous n'êtes plus à la mode, alors... Il y a quand même un titre intemporel, c'est la référence en termes de bande originale de 007, c'est quand même ça. Cold finger.
Ah oui, ça c'est
un des premiers.
En fait, il faut dire aussi que le vintage, la mode du vintage revient, donc ça c'est patiné, ça nous plaît forcément aujourd'hui.
Et puis cette chanson, on va le voir, c'est un peu la matrice. C'est Goldfinger en 1964, c'est Shirley Bassey, une musique de John Barry, le compositeur historique des James Bond. Alors l'histoire dit que Shirley Bassey, elle est rentrée dans le studio avec son manteau, elle a enlevé son manteau, elle a ouvert le micro. Elle a embrayé direct, l'orchestre était en place, toujours très impressionnante comme artiste. Et puis surtout, vous avez entendu, il y a les montées et les descentes d'accords, il y a les cuivres, toujours très importants dans les James Bond. Ça fait un peu partie du cahier des charges, de la patte de
sur la chanson, sur le thème de chaque nouveau James Bond, il y a toujours des cuivres et tout ça, on doit rester.
Très souvent écouter Tina Turner, c'était GoldenEye 95 avec Pierce Brosnan.
Ça c'est vraiment dans le mousse, quoi. Enfin,
pour moi c'est
très,
c'est parce que
Bond,
c'était ma jeunesse aussi peut-être, mais pour moi c'est un des grands thèmes de James Bond.
Est-ce que vous vous souvenez de qui avait composé cette chanson à l'époque?
Je n'ai aucune idée, Jean-Philippe.
Et c'était U2, c'était Bono. C'est Bono, le chanteur de U2, et The Edge, le guitariste, qui s'étaient mis ensemble. Alors il y avait évidemment d'immenses clins d'œil à la version de Goldfinger de 64 de Shirley Bassey. Alors dans la liste, j'ai regardé, il y avait aussi Madonna. Moi j'ai trouvé ça un peu bof. Il y avait Alicia Keys. C'est toujours codé. Vous savez, il y a le générique au début, puis il y a la chanson, ça installe toute l'intrigue. Mais ma chanson préférée de tous les James Bond à moi, c'est celle-ci. Live and let die.
C'est un James Bond.
Oui, il est Batman. Vivre ou laisser mourir.
Live and
vivre
and die.
Et laisser mourir.
Mon polo, Paul McCartney.
Votre
Wings.
Polo.
C'était
ça doit être sympa les soirées avec vous, Paul McCartney, Mireille Mathieu.
J'aimerais tellement
des dîners sympas. Quoi.
J'aimerais tellement. Mourir peut attendre. Ça, c'est le titre du prochain James Bond. Désignement, j'adore le titre de ces
vous
films.
Vous êtes sûr qu'ils ont le temps de le changer encore?
Ça sortira au mois d'avril et ce sera donc avec la voix de Billie Eilish.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Avec bien sûr Mathieu Noël, Eva Rock sa complice, et dans un instant avec le monsieur livre d'Europe 1, Nicolas Caro, qui nous dira comment se faire éditer. Mais avant, Mathieu Noël s'entretient avec son invité de mardi, David Wenkinos, dont deux de ses pièces se joueront dans les prochains mois à Paris.
Aujourd'hui, on parle beaucoup littérature avec un écrivain à succès, David Fuenkinos. Je signale au passage que les écrivains adorent notre émission car ils savent que, question promo, j'assure, Maxime Chattam s'en souvient. Aujourd'hui, c'est Maxime Chattam qui nous accompagne. Il publie un roman Insectes chez Albin Michel. Qu'est-ce qu'il y a, Eva Rock ?
Vous montrez le livre à l'envers.
Aujourd'hui, c'est donc l'un des auteurs les plus lus en France que nous avons l'honneur de recevoir, David Fuenkinos, abonné, on peut le dire, au best-seller. On peut citer entre autres La délicatesse, Charlotte, Vers la beauté, Les souvenirs. Le dernier s'intitule Deux sœurs, c'est d'ailleurs vous qui en parlez le mieux.
Mon dernier roman s'appelle Deux sœurs, donc c'est l'histoire de deux sœurs.
Génial, vous êtes intarissable. C'est pourquoi on va plutôt parler théâtre. On revient à cette pièce, il y en a deux qui arrivent à Paris dans les mois qui viennent. L'une le 21 janvier, 10 ans après, avec Bruno Solo, Mélanie Page. Et qui d'autre encore,
Julien Boisselier, que
Julien
j'adore.
Boisselier, oui, je sais que vous l'adorez. Pas forcément pour des raisons uniquement qui tiennent à son talent.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai, voilà.
Je l'aime
alors,
bien, quoi.
David Fuenkinos, c'est une pièce où on parle évidemment d'infidélité, de tromperie, il y a un triangle amoureux. Vous êtes, vous, le compagnon idéal, David, car dans Pèlerin Magazine, à la question « Quelle faute pardonnez-vous aisément ?», vous répondez « L'infidélité ». Alors ça, il n'y a que deux solutions. Soit vous êtes un saint, soit au moment de l'interview, vous avez un truc à vous faire pardonner.
Ok. Donc c'est vraiment l'exégèse de toutes mes conneries, quoi, cette émission. Quoi.
L'exégèse
non,
de toutes
mais
vos
en fait, je ne suis pas d'accord en plus.
C'est vrai, vous n'êtes pas d'accord avec vous-même?
Non,
vous
non, je ne suis pas d'accord avec moi-même.
Aujourd'hui, vous avez changé d'avis.
À chaque fois que je vais faire une interview, je me dis « Mince, Mathieu Noël, dans 10 ans, il va me la ressortir. Tu te tais maintenant. » faut bien répondre à quelque chose. Quelque chose quand on nous demande voilà, une question.
Non, mais on peut dire les fautes d'orthographe, par exemple. Oui, puis... C'est le truc.
Tiens,
le plus
très bonne.
La prochaine fois, vous appellerez Eva, elle vous trouvera un truc soft comme ça.
Oui, mais alors franchement, je suis dans Pèlerin Magazine. Oui. Pour quelles fautes les fautes d'orthographe.
Oui, c'est un peu nul.
C'est plutôt Picsou Magazine.
Oui, c'est ça.
Est-ce que vous pensez écrire jusqu'à la fin de vos jours, comme un Jean d'Ormesson, par exemple? Est-ce que vous pensez à la postérité
alors,
déjà?
C'est un tacle et un truc dépressif.
Exactement.
Quoi. C'est un tacle, un truc dépressif.
Dépression, tacle,
il y a pas
dépression.
Il n'y
a aucun juste milieu. On vous a flatté tout à l'heure.
Non, mais c'est vrai, Mathieu.
Excusez-moi, je vous parle de la postérité.
Je pense que voilà, si on veut prendre un peu de hauteur, je pense que c'est le rêve de tout artiste ou toute personne voilà, qui vit de sa passion, c'est de pouvoir l'accomplir jusqu'à la fin.
Et finir à la Pléiade, ça serait beau.
De son vivant.
Oui, alors c'est pas forcément mon ambition, hein. C'est vrai que là, j'étais simplement en train de me dire oui, continuez à écrire.
Ah non, mais
c'est
moi,
gentil,
c'est
de me rattraper.
Je vois grand
pourquoi pas le prix Nobel aussi.
Et moi, je vois, oui, exactement, pourquoi pas le prix Nobel.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Laure Daly, je sais que votre roman Charlotte, inspiré de la vie de Charlotte Salomon, peintre allemande morte à Auschwitz à 26 ans, vous avez profondément marqué, voire obsédé à l'époque. Vous disiez, le roman ne met pas fin à mon obsession, c'est ma plus belle histoire d'amour d'écrivain, je ne peux pas enchaîner tout de suite avec un autre livre. Ça vous poursuit encore ce livre-là, qui a en plus été un succès?
Oui, c'est le livre pour moi qui a marqué le moment le plus important de ma vie littéraire. C'est vrai que le succès de ce livre a plus permis aux gens de découvrir Charlotte Salomon. Le livre a eu le Goncourt des lycéens et ça me touche particulièrement parce que le Renaudot aussi, mais le Goncourt des lycéens fait qu'il est beaucoup étudié à l'école.
Il est étudié
en première,
au bac,
en seconde et au bac, ouais, beaucoup.
Ça, c'est la classe ultime.
Et au-delà de la classe, c'est vrai que ça me touche vraiment parce que les jeunes découvrent cette femme et qui est pour moi un exemple de courage et de quelqu'un qui a transformé l'adversité en création littéraire. Et c'est vrai que je suis toujours le président de la secte Charlotte Salomon. Dès qu'il se passe quelque chose, on m'appelle. Les expositions, actuellement, l'exposition est à Londres. Et à la préparation aussi d'un film qui, j'espère, va aboutir.
Alors, justement, comment, quand on est un écrivain à succès comme vous, établi, comment on prépare le coup d'après, le prochain roman? Est-ce que, au contraire, vous vous sentez délesté d'une pression parce que vous savez que, quoi qu'il arrive, vous allez être en tête de gondole à la FNAC? Ou au contraire, vous vous dites, waouh, là, j'ai mon public, il m'attend, je ne peux pas le décevoir. Il paraît que vous avez des romans, par exemple, en stock que vous n'avez pas publié, que vous...
Non, ah oui, avant de publier, oui, j'ai des romans de jeunesse qui sont vraiment à brûler, quoi. Mais
ah oui, non, ce que je veux dire, c'est que non, comme
ah non, non, non,
qui
oh
dit
là,
qu'elle
pas du tout,
romans,
je sais pas comment elle fait, hein, avec trois romans par an. Non, ouais. Non, moi, j'essaye d'écrire péniblement mon prochain roman. Et non, c'est vrai que j'ai tout connu. J'ai connu au début de ma carrière, j'avais assez peu de lecteurs, donc quand j'écrivais, je savais qu'on m'attendait pas énormément. Donc c'est aussi une pression un peu bizarre, c'est une pression de loose. Là, je sais que bon, le livre sera tiré à beaucoup d'exemplaires. Mais bon, aussi, on peut décevoir. Donc, moi, ça me donne une exigence encore plus forte.
Alors, David, on continue de parler de vous. Mais un de nos chroniqueurs estime que parler de l'invité, c'est bien. Mais parler de lui, c'est mieux. C'est dû à ses neuvetés dans Télérama. Je vous présente notre ultime concurrent du jour, spécialiste littéraire d'Europe 1, Nicolas Carreau. Personnage à l'ego bien trempé. Vendredi, Cadmerade a tenté de le titiller. Vedette ou pas vedette, Nico ne s'est pas laissé faire.
Moi, je suis pas particulièrement fan de sport, mais...
Ça se voit, d'ailleurs, un peu.
Oh, je suis affûté, quand même, eh oh.
Je me demandais si vous étiez de profil ou de face, en fait. Là.
Bon, je vous renvoie pas le compliment cette fois.
4-1, carreau 1, la balle au centre. Nicolas, ce soir, vous nous révélez vos ficelles pour se faire éditer. Et bien, en plus, vous êtes bien placé puisque vous vous êtes fait éditer. Je tiens à signaler la sortie de votre excellent livre.
Aujourd'hui.
Et vous les rangez comment, vos livres préfaces, bon, si c'est pas la classe, de François ouais, Morel, c'est en plus, qui plus est, que vous retrouvez aux éditions La Librairie Vuibert. Je signale
Merci
votre livre, mon cher Nicolas.
C'est très gentil. Moi, je voulais vous parler du mystère Henri Pic de David Fuenquinos, qui imaginait l'idée d'une bibliothèque remplie des manuscrits refusés. C'est un mythe lancé par l'immense poète américain Richard Brautigan, dont on a déjà parlé ici. Alors, pour Fuenquinos et Brautigan, c'est de la fiction, mais des lecteurs ont créé cette bibliothèque pour de vrai. Elle est à Vancouver, dans l'état de Washington, pas très loin de Seattle. Elle s'appelle la Brautigan Library. C'est l'un des amis du poète, John Barber, qui l'a construite. Elle abrite 300 livres jamais publiés et impubliables d'ailleurs pour certains, selon John Barber.
Bah justement, oui, s'ils n'ont pas été acceptés, c'est qu'il y a peut-être une raison.
Alors pour certains, oui, ils sont simplement mauvais, mal écrits, mal foutus, inintéressants. Mais pour d'autres, et c'est tout l'intérêt de cette idée, pour d'autres, ce sont des génies incompris et ou trop en avance sur leur temps. On sait bien qu'il y a beaucoup d'écrivains reconnus qui ont commencé par essuyer énormément de refus. Brötigan a reçu des dizaines de lettres de refus. Proust a été refusé par Gallimard. R.J. Ellory, auteur de Polar britannique, m'avait raconté un jour qu'il avait écrit 24 romans avant d'être publié pour le 25e. Mais c'est-à-dire qu'il a écrit et il a essayé de se faire publier 24 fois et ça n'a pas marché. Je lui ai dit, mais alors tous les romans qu'on lit maintenant de vous, c'est ces 24-là. Il me dit, non, j'ai tout jeté à la poubelle. Alors, pour se faire publier, il n'y a pas de recette miracle, évidemment, mais il y a quand même quelques astuces, quelques pistes. Il faut déjà envoyer un travail abouti. Envoyez pas 4 chapitres en se disant, bah, c'est déjà génial.
Sauf quand vous êtes David Fonkinos, à mon avis, il envoie 4 chapitres, même, c'est bon.
On verra si l'éditeur a le flair pour constater que je suis un génie ou pas. Il faut aussi se renseigner sur la maison d'édition, essayer de capter l'esprit de la maison d'édition. Et puis,
chacune a son identité.
Voilà, exactement. Et pas l'envoyer n'importe où, ça sert à rien. Et puis, se renseigner sur les éditeurs dans les maisons d'édition. Il y en a qui publient tel genre de texte ou tel genre de texte. Il faut se renseigner un petit peu. Et puis ensuite, envoyer directement à l'éditeur en question. Il faut écrire une lettre en disant qui vous êtes.
Il faut écrire une lettre de motivation. Ouais, on n'envoie pas juste le manuscrit.
Non, qui vous êtes et qu'est-ce qu'il y a dans votre livre? Quel est l'esprit de votre livre et pourquoi il est intéressant? Il faut se battre un petit peu. Mm-hmm. Et puis, alors, une fois qu'on l'a envoyé, alors faut attendre un petit peu. Les éditeurs reçoivent des dizaines et des dizaines de manuscrits par jour. Donc voilà, ils n'ont pas beaucoup de temps pour le lire. Ne vous formalisez pas s'ils ne vous répondent pas ou s'ils vous disent non. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de talent. Ça ne veut pas dire que vous êtes un génie non plus. Il faut juste attendre, continuer, recommencer encore et encore et encore, persévérer.
David, vous avez essuyé des refus, vous, au début de votre carrière ?
Oui, pas mal de refus. Et sur mon premier roman que j'ai envoyé, il a été refusé partout. Et j'avais totalement oublié qu'il me restait la réponse de Gallimard. Je me suis dit, évidemment,
ça va être non.
Et plusieurs mois après, j'ai reçu un appel du comité de lecture de Gallimard en me disant qu'un des éditeurs, Jean-Marie Laclaftine, avait lu et aimé. J'ai évidemment cru un canular. Et jusqu'au moment où je suis arrivé chez Gallimard pour rencontrer cet éditeur, j'avais toujours en moi la peur que, voilà, que ce ne soit pas vrai.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
2 heures pour s'informer et garder le sourire, c'est la promesse de Mathieu Noël tous les après-midi sur Europe 1. À chaque jour, un invité d'honneur. Jeudi, c'était l'écrivain Éric Orsenna, venu nous parler de son livre qui parle d'amour avec un grand A, « Briser en nous la mer gelée » paru chez Gallimard, et il a pu découvrir le sujet de Farah Kessri.
Une amoureuse de la nature, des animaux, une vétérinaire qui a tout de suite compris en écoutant notre émission avec Clovis Cornillac l'autre jour, Clovis qui incarnait justement un veto dans un film, qu'elle et nous, on était sur la même longueur d'onde, celle du respect du vivant et de la tendresse pour l'animal, souvenez-vous.
Elle est dingue la scène du volage.
Ouais, elle est très belle.
Parce que
elle l'a vraiment fait. Ouais.
Elle a vraiment fait.
Ouais. Il y avait une véleuse à côté.
Oui, je m'imagine bien.
Mais il n'empêche qu'elle le fait vraiment. Ouais. Ah ouais, elle lutte et puis c'est vrai, elle l'a vraiment accouché. Ce fait que le veau, c'est le premier regard qu'il a eu, c'est sur elle.
Et elle l'a gardé?
Non, mais il était délicieux et c'est vrai que.
Ici, on adore les animaux, surtout avec une pincée de gros sel. Et aujourd'hui, vous nous parlez de ces facultés étonnantes qu'ont les animaux pour se protéger du froid. Ils ont tout simplement plus de poils que nous, non? C'est pas compliqué.
Oui, c'est vrai, ça fait partie de leur stratégie. Et c'est vrai que si l'homme a conquis tous les écosystèmes, ce sont quand même les espèces polaires qui sont les championnes pour résister aux températures extrêmes. Je vous rappelle qu'au niveau des pôles, les températures peuvent chuter jusqu'à moins 40 degrés, moins 50 en hiver. Et vous avez des vents qui vont souffler à 100-200 km/h. Eh bien, pour résister et survivre, il faut vraiment avoir des bonnes stratégies.
Et c'est quoi comme stratégie?
Eh bien, si on prend l'exemple des manchots, les manchots empereurs qui sont plutôt connus par le grand public, eh bien, eux, ils vont pratiquer la thermorégulation sociale. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait de se tenir au chaud en restant groupé. Et c'est efficace.
C'est ce qu'on fait dans l'équipe sauvage.
Absolument, absolument. Mais eux, c'est encore plus efficace puisque à l'intérieur du groupe, vous allez avoir des températures qui vont atteindre 35 degrés, alors qu'à l'extérieur du cercle, vous êtes à moins 35 degrés.
Mais, qui est au centre du cercle? Les manchots qui sont sur les bords, ils sont fait avoir.
Non, puisqu'ils intervertissent leur place. C'est à tour de rôle. Chacun pense à l'autre. Donc ça marche très très bien. Eh bien, bien sûr, vous avez parlé du pelage, mais là, pour les oiseaux, parce que ce sont des oiseaux, les manchots, vous avez une couche de graisse qui va servir d'énergie et vous avez bien sûr toutes les plumes qui vont s'entrelacer et former un isolant thermique. Mais leur super astuce se trouve au niveau des pattes. Ils ont un radiateur, une sorte de radiateur. C'est pas vraiment le radiateur électrique que vous imaginez, bien sûr, c'est un échange échangeur de chaleur entre les artères et les veines. Et ça leur permet d'avoir toujours 2 degrés de température supplémentaire par rapport à l'extérieur. Et c'est très important d'avoir chaud aux pattes quand on est un manchot, parce que c'est le
phrase,
papa.
C'est vrai que je vais vous la sortir celle-là.
Je sais. Parce que le papa manchot, eh bien, c'est lui
le
qui
papa
couve.
Le papa manchot, c'est une chanson.
C'est lui qui va couver l'œuf pendant que la femelle est partie reprendre des forces.
Farah, vous êtes partie sur des très bonnes bases dans cette chronique. La grenouille des bois de l'Alaska qui gèle en hiver.
Absolument. Les 2/3 de l'eau de son corps se transforment en glace. Et contrairement à d'autres espèces qui, bon, tout simplement, vont mourir à cause du gel, parce que vous savez, ce sont la glace, quand l'eau se transforme en glace, il y a la formation de cristaux. Les cristaux, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement plein de pics qui vont aller détruire la cellule. Elles vont l'exploser. Eh bien, cette grenouille, au lieu de mourir explosée par tous ces cristaux, eh bien, elle va produire 5 fois plus de glucose et ce sucre va servir d'antigel, va protéger toutes les cellules de son corps.
Mais elle n'a pas de diabète.
Elle n'a pas de diabète parce qu'elle a un super système de régulation contrairement au nôtre. Et en plus, à la fin de l'hiver, au printemps, la glace va fondre, l'eau va réhydrater les cellules, la température va remonter, le glucose va être à nouveau disponible et ce glucose, ce sucre va servir d'énergie, parce que je vous rappelle qu'à la saison le printemps, c'est la saison des amours et elle a intérêt à sauter partout, je peux le dire.
C'est vrai. Et il y a des espèces qui hibernent, comme les ours.
Absolument. Alors, sur les 8 espèces d'ours, vous avez seul l'ours noir, l'ours brun et la femelle ours blanc qui vont hiberner. Et c'est pas vraiment le terme hiberner, on utilise plutôt le terme hiverner, parce que c'est la marmotte qui hiberne. Sa température tombe de 38 degrés à 5 degrés, alors que les ours passent de 38 à 32 degrés environ. Ils ont besoin de garder un seuil de vigilance au cas où il y aurait du danger. Et au moment où ils vont donc hiverner, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils vont se mettre dans leur tanière, se rouler en boule pour garder la chaleur. Qu'est-ce qui se passe aussi ? Eh bien, ils vont arrêter de manger, ils vont arrêter de boire, ils ne vont plus uriner, ils ne vont plus déféquer. Leur transit intestinal s'arrête pratiquement.
Il y a un bouchon. C'est hibernatus, quoi.
Exactement. Il y a un bouchon fécal qui est à l'extrémité du rectum pour que, bien sûr, leur tanière reste propre. Mais surtout, ce qui est étonnant, c'est que leurs battements cardiaques vont ralentir. Ils passent de 60 battements par minute à 8 battements. Leur respiration est divisée par 2. Tout se ralentit, consomme moins d'oxygène. Et ce qui est extraordinaire, ce qui fascine les chercheurs, c'est que tout simplement, on se demande comment ils font. Parce que si on arrive à les copier, eh bien, on pourra peut-être envoyer des astronautes dans les voyages interplanétaires.
Bah oui, exactement, dans les films de science-fiction, on voit déjà ça.
Ils perdent pas d'os, ils perdent pas de muscles, ils ont pas de problème de cholestérol alors qu'ils ont mangé comme des malades juste avant d'entrer en hibernation. C'est quand même hallucinant.
Eh bien, et le seul d'entre nous qui connaîtra ça, puisqu'il est immortel, c'est Eric Orsena. Le voyage sur Mars, nous, hélas, on ne sera plus là.
Mais vous avez vu un ours en Alaska.
C'est magnifique. Ah ben, j'ai vu plein d'ours, parce que j'ai fait beaucoup de voyages en Arctique, parce que je vous rappelle que Arctique, ça vient du grec arctos, qui veut dire ours, et Antarctique, c'est l'endroit où il n'y a pas d'ours. Donc, il y a des ours, vous comprenez. Et donc, moi, j'ai vu ça, et j'ai eu un professeur d'ours, qui est Marie Manceau, qui est chercheuse au Collège de France, qui m'a raconté des trucs incroyables, exactement ce que vous dites. Par exemple, la vraie couleur de l'ours blanc.
Ah, on avait prévu d'en parler.
Exactement. On voit les noirs.
Oui, parce que la couleur de l'ours blanc, à votre avis, de la peau de l'ours blanc, bah, elle n'est pas blanche.
Ah, bah non.
Comme
non,
vient de le dire exactement. Eric Orsena, elle est noire.
Pour capter le maximum du rayonnement. Et pourquoi l'ours blanc a une tête petite par rapport à un corps énorme ? C'est pour moins dépenser d'énergie, parce que c'est par la tête qu'on dépense énormément d'énergie.
Nous, on perd 10%
exactement.
De notre chaleur.
Est-ce que,
la tête.
Et moi qui suis chauve, je perds 50%. et pourquoi il a des pattes si grandes comme ça ? C'est pour pouvoir mieux nager et passer en répartissant son poids sur une glace qui peut être instable.
Je suis parfaitement d'accord avec vous. Bravo, vous êtes mon héros.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Avec toujours Mathieu Noël et Varrock, ses invités, notamment Olivier Rollinger. Dans son livre « Pour une révolution délicieuse », le chef cuisinier plaide pour une alimentation raisonnée, raisonnable. Il était donc l'invité de Mathieu Noël mercredi. Il nous a fait également partager sa passion pour les épices. Mais l'équipée sauvage, c'est aussi une compétition qui se poursuit à présent avec Ève Roger.
très franchement, Ève Roger, j'espère que votre sujet est optimiste, porteur d'espoir, parce qu'hier avec Eva, on en avait gros sur la patate. Quand Anne Le Gall a conclu son papier sur les espèces disparues, on a voulu y croire. Avec Eva, on se raccrochait au moindre petit espoir que peut-être l'animal en question n'est pas tout à fait disparu. Espoir rapidement douché par la froide lucidité d'Anne Le Gall. Comment peut-on être sûr, Anne, car moi vous me connaissez, je suis résolument optimiste. Comment peut-on être sûr qu'il n'y en a pas un petit?
Oui, qui se cache derrière un...
Un petit espadon.
Derrière une petite pierre, oui.
Un petit bébé.
En fait, la dernière fois qu'on a vu cette espèce vivante, c'était en 2003.
Ah oui. Eh oui. Alors aujourd'hui, je vous préviens Roger, pas de sujet anxiogène, je ne suis pas d'humeur.
Ah bah c'est pas mon genre. Hein.
Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui?
Alors c'est un autre petit livre délicieux qui s'appelle La théorie de la veste et je vous fais le pitch. L'auteur nous promet à tous de faire un malheur dans notre vie professionnelle ou même amoureuse à condition de prendre donc des vestes. Le refus d'un client, le rejet d'une idée par son supérieur hiérarchique... Le refus d'une chronique par Mathieu Noël.
Ça peut arriver.
L'indifférence de celui à qui on propose un rendez-vous professionnel ou même un rendez-vous galant. Eh bien, plus on s'habitue à ce qui accompagne le râteau, c'est-à-dire la honte, la vexation, l'humiliation parfois, et plus on s'endurcit. Et donc, moins ça fait mal, plus on ose. Plus on ose, plus on vise haut, et plus on a des chances de décrocher le gros lot. Une fois de temps en temps. L'auteur du livre s'appelle Annabelle Roberts, elle est canadienne, et elle s'est fixé un quota de 3 vestes par jour.
Oh mon Dieu.
Elle dirige une agence de com et le jour où je l'ai rencontrée, elle essayait d'inviter des huiles du CAC 40 au lancement de son livre, justement, parce qu'elle fait une petite fête ce soir. Écoutez.
Aujourd'hui, par exemple, il y a une dame sur laquelle, qui est RH d'une grande société CAC 40, sur laquelle je sais que je peux compter pour qu'elle m'envoie boulet. Donc je lui envoie un petit texto pour l'envoyer à mon lancement de bouquin. Ça sera super qu'elle vienne, comme ça je lui serre la main, peut-être on va faire affaire ensemble. Elle m'a répondu non, je suis pas disponible, etc. Bim, veste.
Bim, veste. Ça y est, elle avait rempli son quota.
Mais par jour, moi ça me déprimerait.
Ça fait beaucoup, 3 par jour. Ah, oui, en amour, non. Ça marche aussi?
Eh bien oui, ça marche, bien sûr, mais à condition de ne jamais oublier un principe, c'est que chaque demande doit être accompagnée d'un zeste d'humour, d'un peu de sincérité, ce qu'Annabelle Roberts appelle le paramètre mignon. Exemple de cas, un garçon un peu gros, un peu moche, aimerait bien inviter la fille la plus jolie de l'entreprise à boire un verre. Écoutez Annabelle.
Demander des vestes, c'est pas être lourd. Hein. Il faut être mignon. Il faut dire, écoutez, je suis sûre que ça va être non. Vous êtes carrément la fille la plus belle que je connaisse dans tout mon entourage, etc. Et en plus, vous êtes brillante. J'ai juste envie de boire un verre avec vous. Est-ce que ça vous dit? Elle va dire non, probablement, ok? Mais si elle dit oui, votre samedi soir va être carrément plus intéressant si vous n'avez pas pratiqué la théorie de la veste.
Voilà.
Oui, mais sauf que là, on peut dire oui, mais un peu par empathie, voire par pitié.
Eh bien, c'est le début de quelque chose.
Ah oui, sur un malentendu, clac.
Oui,
bien
oui.
Non,
mais maintenant, je pense que c'est une belle manière de finalement s'ouvrir aux autres.
Absolument.
C'est une
façon de retrouver la conscience.
C'est-à-dire que l'échec, je sais pas, qui disait où je gagne, mais je ne perds jamais. C'est-à-dire où je gagne, où j'apprends. Voilà, je crois que c'est pas...
C'est pas du Churchill, ça, non? Ah, j'aime bien Excel quand vous... Non, vous tentez comme
non,
ça.
Non.
Ou il y avait aussi... Werner Braun.
Jean Moulin, tu fais n'importe quoi.
C'est Alain Siroux, oui, je suis mes sources, qui me disait que Werner Braun, quand une fusée n'explosait pas en solde, n'explosait pas, et donc tout le monde était content, il disait, bah pas moi, parce que j'ai rien appris.
Ouais. Ah oui.
Eh oui, c'est, voilà. C'est exactement la chose. Non, mais elle a raison, cette dame, ça doit être un très
on
joli...
On continue, alors vous allez voir.
Pour donner l'auteur de la citation... Quand je ne gagne pas, j'apprends. C'est Nelson Mandela.
Ah ben, j'ai dit Mandela.
Ah, vous l'avez dit. Ah ben, vous êtes le meilleur, Olivier Rollinger.
Bah, quand même.
Alors, la veste, Ève Roger, il vaut mieux la prendre par SMS ou par téléphone?
Alors, la veste par SMS, c'est pas mal. Un client ou un patron de média que vous avez sollicité qui ne vous répond pas ou qui vous répond non, ça ne fait pas trop mal.
Oui, c'est moins violent.
Mais c'est moins bien que la veste par téléphone, parce que c'est la pire, la veste par téléphone.
Oui, on entend l'intonation.
C'est la plus humiliante, donc c'est celle qui vous fait le plus progresser.
Ouais.
Donc, allô, bonjour. Est-ce que je vous dérange? Oui.
Mais on peut pas loser tout seul dans son coin, il faut être accompagné.
Non, ça c'est le deuxième principe de la théorie. C'est indispensable de désigner un copain ou une copine de la loose qui doit vous soutenir, vous féliciter à chaque échec, applaudir le courage que vous avez mis.
Vous avez ce rôle-là vis-à-vis d'Emmanuel Duteil, votre ami du service éco.
C'est applaudir le courage que vous avez mis en œuvre pour aller chercher cette veste, parce qu'il faut aller la chercher. Il est là aussi pour vous réconforter, évidemment, dire que c'est grâce à une bonne loose qu'on va y arriver. Et moi cet après-midi, je me demande qui va être mon copain ou ma copine de la loose. Si jamais je n'ai pas convaincu Olivier Rollinger.
Oui.
Sacré Ève Roger.
16h, 18h sur Europe 1.
L'équipé sauvage.
Et on arrive au terme de cette compilation. On va rester encore un petit peu avec Mathieu Noël et ses invités. Retour tient sur vendredi dernier lors de l'émission en public avec le duo d'acteurs qui est à l'affiche du film Une belle équipe, Kad Merad et Sabrina Ouazzani.
Vous écoutez toujours l'Équipée sauvage du vendredi, l'émission qui chérit vos neurones, bichonne vos zygomatiques et trouve encore le temps d'exciter vos papilles. Et justement, en parlant d'excitation, voici quelqu'un qui risque bien de semer la zizanie dans le petit cœur de notre invitée Sabrina Ouazani. En effet, entre eux, ça pourrait être le coup de foudre. D'une part, parce qu'ils partagent la même passion.
Sur la tête de ma mère, touche à une de mes teufries, je me coupe de watt, ok?
Une violence que comprend parfaitement Olivier Pouls.
Les gens qui viennent vous piquer vos frites, moi je déteste ça.
Et puis, autre élément du coup de foudre, ils ont l'un et l'autre en commun un rire discret et distingué. J'ai déjà pris les alliances au cas où. Sabrina, je vous présente votre âme sœur, Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Enchanté.
Bonjour Sabrina, enchanté. Ben, je suis ravi d'être là.
Alors, ça c'est tout Pouls. Début de semaine, recette détox pour se remettre des excès des fêtes. Et aujourd'hui, même pas de recette, du pinard. Tout simplement, brut de décoffrage.
Je me suis dit que ça vous ferait peut-être plaisir de boire un petit coup avec nous, ma chère Sabrina et mon cher Kat. En plus, je sais que... vous, en tout cas, Kat, vous aimez le vin. C'est une passion.
Beaucoup. Ouais, voilà. Ouais, de plus en plus. Ouais, bah,
c'est modération.
L'âge, voilà, elle est à force. Et puis, oui. J'aime les vins du monde entier. Je suis très curieux tout le temps. J'essaie toujours d'aller chercher des vins. Évidemment, il y a les classiques. Hein. Bien sûr, on a la chance d'avoir en France des vignobles magnifiques. Mais il y a plein de vins à découvrir. Et j'aime vraiment ça. J'essaie de...
Eh bien là, je vous ai, cette passion. Je vous ai apporté un vin que vous n'avez jamais bu.
Mais j'ai jamais le goûté. Voilà.
Vous ne l'avez jamais bu.
Et il est très bon. Décalé Qatar. Oh, et oh, et. Décalé Qatar. Décalé Qatar. Oh, ouais.
Il n'a rien perdu de sa superbe.
Voilà. Et en tout cas, il l'a bien dégusté.
Alors, non, attendez, je vais prendre de l'armichette. Non, c'est très bon.
Sauf à avoir vécu au début du XXe siècle, vous n'avez pas pu goûter ce vin.
Pourquoi ?
Parce que ce vin est une résurrection. Alors, je vais faire un tout petit peu d'histoire. Vous savez peut-être que à la fin du 19e siècle, une maladie terrible s'est abattue sur le vignoble français,
la phylloxéra,
qui a ravagé une grande partie du vignoble, pratiquement la totalité du vignoble, et notamment, puisque là, on se balade dans le sud-ouest, le vignoble du sud-ouest et de la région de Cahors a été totalement décimé. Il faut savoir qu'à l'époque, le vignoble de Cahors était le pendant de Bordeaux. Il était aussi important et pratiquement aussi puissant. Malheureusement, la crise du phylloxéra a été terrible à Cahors, tout comme à Bordeaux, mais le vignoble n'a pas été reconstruit, en quelque sorte. On n'a pas replanté. Ça a mis beaucoup, beaucoup plus de temps. Et là, il y a deux passionnés que je salue parce que ce sont des gens formidables, qui s'appellent Claude et Lydia Bourguignon, qui sont des biologistes, des spécialistes du sol, qui ont vraiment dans le monde entier ausculté tous les sols, tous les terroirs pour voir de quoi il est fait, les matières organiques, la composition des sols, etc. Et ils sont tombés sur ce terroir à côté de Cahors, qui est un terroir dans un petit village qui s'appelle Larocq-sur-Arc. Et là-bas, ils ont constaté qu'un vignoble avait existé 130 ans auparavant et ils ont voulu le faire revivre. Alors c'est un vignoble qui était totalement vierge de tout produit chimique puisqu'il n'avait plus été travaillé, donc un terroir particulièrement intéressant. Ils ont replanté des cépages qui sont les cépages endémiques de l'appellation. Donc vous allez retrouver du Malbec, du Cabernet Franc, mais aussi du Prunelard et de la Négrette. Et c'est le premier millésime de ce vin, Larocq d'antan. C'est une cuvée qui s'appelle Nigrine. Et vous regoutez un terroir qui avait disparu.
C'est difficile de vous faire sentir ça par micro interposé, chers auditeurs, mais c'est vrai qu'il est très très bon.
C'est lui qui a gagné.
Vraiment.
C'est lui qui a gagné. C'est mon préféré. C'est mon frère. Je ramène de mon frère.
Bon, alors, tiens mon cher Kat. Voilà.
Oui.
Et à la vôtre, chers auditeurs, mais toujours avec modération.
Oui, mais ça évidemment.
Et on le trouve où ce vin pour les gens qui s'intéressent?
Il y en a évidemment au domaine, donc Larocq d'antan.
Il faut des lunettes 3D.
Il est en cours de distribution.
Voyez avec Alain Sirou.
Il y en a très peu de bouteilles, ça vaut entre 25 et 30 euros. Et c'est vraiment un projet qui est en devenir. Il y a, je crois, 5 hectares ou 6 hectares à l'heure actuelle.
C'est bon,
hein. Voilà, c'est absolument remarquable. Il n'a pas droit à l'appellation Cahors. Il est
parce que
le vignoble tel qu'il a été redéfini au moment des appellations n'intègre pas cette appellation. Et donc, il est tout simplement en indication géographique protégée, Côte du Lot. Mais ça n'empêche qu'il est remarquable. Bravo pour ce projet.
Bravo pour ce projet. Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h. Sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h,
l'équipée sauvage. Et rendez-vous demain dès 16h sur Europe 1 avec Mathieu Noël et sa bande pour découvrir de nouvelles chroniques et de nouveaux invités. On débutera d'ailleurs la semaine avec le comédien et auteur Frédéric Bourali. Alors son nom ne vous dit peut-être rien, mais si je vous dis José de Scène de Ménage, ah bah là oui, ça vous revient. Bonne fin de week-end avec nous, à suivre Wendy Bouchard pour le Grand Journal du Soir.